Vous êtes sur RTL.
Kung Fu Panda.
Oui, le 4 sort aujourd'hui, je crois.
Aujourd'hui, on va parler avec Stéphane Boussoc.
Ah, bah voilà.
Ah bah voilà. Alors, ça vous donne envie ou pas?
Ah, bah oui. Ah bah oui. Sympa, Kung Fu Panda.
Vous savez, sur les Champs-Élysées, ils ont mis une énorme tête de panda sur une colonne Maurice. À chaque fois que je passe devant, j'explose de rire.
Oui, ça, je sais que ça vous fait rire.
Bah
ça,
oui, je suis bon public pour ce genre de bêtises, moi, vous savez.
Non, mais c'est très bien à voir avec les enfants.
Oui. Mais même sans.
Oh, bah sans, moi, si je vois Kung Fu Panda à la télévision française, je regarde, vous savez. Bon, bah voilà, on s'est tout dit sur nos petits pandas.
Oui, c'est bien.
Très bien. Je vous dis à demain.
Bye bye.
Bonne journée à toute l'équipe de Nos Petits Matins. On les retrouve dès 4h30 demain. On sera quoi demain, mercredi?
Demain, on sera jeudi.
Ah, jeudi.
Aujourd'hui, nous sommes mercredi, jour des enfants. Pour le cinéma, c'est bien.
Bonjour Amandine.
Bonjour Yves.
Bonjour à tous. Beaucoup de curiosités ce matin dans notre matinale d'information dès 7h10. Vous découvrirez dans RTL Événement ces employeurs qui sont absolument prêts à tout pour recruter. Maintenant, ils alpaguent en pleine rue pour trouver des candidats. C'est une enquête de Simon Marseille.
À 7h40, je reçois ce matin l'actrice Vaina Diocante. Elle publie un livre choc sur l'inceste abusé par son père dès l'âge de 5 ans. Elle raconte et se raconte dans À corps ouvert. Le livre sort demain. C'est bien sûr un livre douloureux, un message d'espoir aussi pour tous ceux qui, comme elle, ont vécu l'horreur. Et ils sont nombreux. Je vous rappelle ces chiffres qui sont toujours glaçants. 1 Français sur 10 dit avoir été victime d'inceste. 1 sur 10.
À 8h20, c'est le portrait d'un personnage bien particulier que nous proposent nos confrères journalistes Christian Chéneau et Georges Malbruno. MBS, Mohamed Ben Salman. Il est l'avenir de l'Arabie Saoudite et de toute une région. Un bédouin richissime, capricieux, inquiétant, donc passionnant. Le livre de nos confrères vient de paraître aux éditions Michel Lafond. Enfin, ne ratez pas, notre RTL vous explique à 8h10. La tonne de cacao s'échangeait à 10 000 dollars hier à la Bourse de New York. Les prix s'envolent. Les œufs de Pâques aussi. À quand un petit prêt à la conso pour nos œufs de Pâques? C'est la question du matin. Nous sommes le mercredi 27 mars 2024, 27-03-24. Excellente journée à vous tous qui nous écoutez. RTL, il est 7h.
RTL Matin. Avec Amandine Bégaud et Yves Calvi.
Et le journal avec Hortense Crépin. Bonjour Hortense.
Bonjour Amandine, bonjour Yves, bonjour à tous.
Trois personnes sont donc toujours en garde à vue ce matin dans l'affaire de la disparition de Lina.
Les premières auditions en 6 mois d'investigation, les enquêteurs cherchent notamment à vérifier leurs emplois du temps le jour des faits. Trouver un travail quand on est à quelques années seulement de la retraite, l'emploi des seniors est sur la table aujourd'hui d'un séminaire du gouvernement.
Le proviseur du collège Maurice Ravel, qui avait été menacé de mort, on s'en souvient, s'en va. C'est une défaite pour l'école, pour la République, mais aussi pour l'État. C'est ce que nous dira Étienne Jernel à 7h15.
Et puis le football, à moins de 3 mois de l'Euro, la victoire est retrouvée, mais les doutes pas vraiment dissipés chez les Bleus, vainqueurs du Chili, 3 buts à 2.
À 7h20, nous entrons dans l'histoire avec Laurent Deutsch. De quoi nous parlez-vous ce matin, Laurent?
Vous connaissez la chanson Paris sera toujours Paris. Eh bien, aujourd'hui, je vais vous raconter grâce à qui Paris est devenu Paris, justement parce que c'est son anniversaire, à notre baron Haussmann.
À tout à l'heure.
À tout à l'heure.
RTL Matin.
Alors que l'enquête patinait, c'est une première depuis la disparition de la jeune fille il y a 6 mois. 3 personnes sont toujours entendues en garde à vue ce matin dans l'affaire Lina. Cette adolescente de 15 ans disparue fin septembre dans le Bas-Rhin en se rendant à pied à la gare de Saint-Blaise-la-Roche à 3 km de chez elle. Bonjour Yannick Holland.
Bonjour.
Correspondant de RTL dans le Grand Est, on en sait plus ce matin sur le profil des 3 gardés à vue.
Oui, il s'agit d'un homme et d'un couple qui habitent dans le secteur où Lina a disparu. Ils n'ont a priori aucun lien familial ou amical avec l'adolescente. L'homme est âgé d'une 40aine d'années. Il a été interpellé chez lui hier matin. Puis un couple de septuagénaires a été convoqué par la gendarmerie avant d'être placé en garde à vue. Selon le Parisien, ce couple a affirmé avoir vu Lina le 23 septembre alors que matériellement, c'était impossible pour eux. Alors se sont-ils trompés de bonne foi ou est-ce que cela cache quelque chose de plus grave? C'est ce que les enquêteurs cherchent à déterminer. De son côté, l'homme a de nombreuses incohérences dans son emploi du temps le jour de la disparition. Là encore, les enquêteurs veulent comprendre pourquoi. On sait aussi que plusieurs jeunes du cercle de connaissances de Lina ont été entendus par les gendarmes hier, mais au cours d'auditions libres pour préciser certains points. Il y a régulièrement ce type d'audition depuis 6 mois. Les recherches sur le terrain continuent elles aussi. La semaine dernière, les gendarmes ont fouillé 2 maisons de fond en comble pendant plusieurs heures. Un étang a aussi été sondé il y a 2 jours pour fermer des portes, comme disent les enquêteurs. La procureure de Strasbourg l'a rappelé hier dans un communiqué, il y a cette volonté d'explorer vraiment toutes les pistes, toutes les hypothèses, une à une, et c'est dans ce cadre que s'inscrivent ces trois gardes à vue.
Yannick Holland pour RTL. Aux États-Unis, les recherches suspendues après l'effondrement de ce pont dans le Maryland sur la côte Est. 6 personnes sont présumées mortes. Ce porte-conteneur a percuté un pont autoroutier. Le navire avait un problème électrique. Le trafic dans le port, l'un des plus importants d'Amérique, est interrompu jusqu'à nouvel ordre.
Bruno Le Maire commentait les chiffres ici même sur RTL hier matin. 5,5%, c'est le montant du déficit. Et une question désormais, qui paiera la facture?
Le gouvernement le sait, il va devoir se rattraper. Et à la lettre R, on trouve aussi le mot rigueur, lancé hier par le Premier ministre. Alors parmi les pistes d'économie, l'assurance chômage. Gabriel Attal participe à un séminaire sur le sujet aujourd'hui, où la question de l'emploi des seniors sera également évoquée, car retrouver un poste quand on approche de la retraite est souvent un casse-tête. Des associations accompagnent donc les seniors. Exemple dans le Val-de-Marne, Mathilde Piquet.
Autour de la table, 4 participants de plus de 55 ans réunis autour de l'animatrice de l'association Promo 45+. L'heure est au bilan.
Bonjour. Est-ce que vous avez eu des retours par rapport à vos candidatures?
Je leur ai laissé mon CV.
Dans certains services, c'est une tranche d'âge qu'on recrute. La moyenne d'âge, c'est 25 ans. Ça n'a pas collé. On me l'a dit une fois.
Atelier CV, simulation d'entretien et même relooking. Ces seniors ont mis toutes les chances de leur côté, mais les obstacles restent nombreux, surtout du côté des recruteurs. Yannick, ancien steward de 58 ans.
Ils peuvent se dire il va travailler pendant 2-3 ans et pourquoi former quelqu'un qui ne restera pas?
C'est eux qui recrutent.
Et l'adresse est ici.
Tu envoies ton mail parce qu'ils cherchent aussi des comptables.
Tous s'entraident dans leur recherche et se redonnent confiance. Kéra, comptable de 55 ans.
Je me sens pas du tout à la hauteur en fait. Je me suis énormément isolée à la maison. Je me disais bon, c'est que je suis pas très loin de la retraite, mais en même temps au fond de moi, je sais que je suis capable.
Et le dispositif porte ses fruits. 2/3 des bénéficiaires ont retrouvé un emploi après l'accompagnement.
Un reportage de Mathilde Piquet du service économie de RTL.
Il est 7h05, le gouvernement qui veut sortir de l'épaisse forêt du déficit, quand Emmanuel Macron, lui, a passé sa soirée au cœur de l'Amazonie.
Le président est arrivé au Brésil pour 3 jours et après un entretien avec son homologue Lula, le chef de l'État a remis la Légion d'honneur au chef indien Raoni. Une cérémonie loin des dorures, au cœur de la forêt amazonienne, Thomas Després.
Oui, il fallait bien un tel décor pour rendre hommage à une icône planétaire.
Je voulais te dire, nous te disons tous, Nei Kumré, merci, Raoni, pour ton œuvre, ton combat inlassable, pour toi, ton peuple, et pour toute l'Amazonie et ses peuples autochtones.
Au milieu des arbres, sous une tente montée pour l'occasion, Emmanuel Macron, micro à la main, a fait tomber la veste.
Monsieur Ropni, tout tirer.
Et il ne boude pas son plaisir.
Au nom de la République française, nous vous faisons chevalier de la Légion d'honneur.
Les deux hommes s'enlacent longuement sous l'œil rieur du président Lula, devenu photographe d'un soir. Lula, c'est comme mon frère, Macron comme mon fils à double cacique. Mais l'Amérindien n'en perd pas pour autant son verbe. Il ne faut pas abandonner le travail, lance-t-il au dirigeant, dénonçant au passage la construction d'un chemin de fer qui détruirait une forêt au Brésil. Et cette ultime demande, lancée comme un défi à plus de 90 ans. Maintenant, j'espère avoir votre soutien pour avoir le prix Nobel.
Thomas Després, envoyé spécial de RTL au Brésil. Alors pour le Nobel, il faudra voir, mais Emmanuel Macron a en tout cas annoncé hier avec le président Lula un programme d'investissement vert pour l'Amazonie, objectif 1 milliard d'euros sur les 4 prochaines années. Des bombardements israéliens ont de nouveau frappé le sud de la bande de Gaza cette nuit, malgré le vote lundi aux Nations Unies d'un appel à un cessez-le-feu immédiat. Le Hamas parle aussi de la mort de 18 personnes, dont 12 noyées en mer, en essayant de récupérer de la nourriture parachutée. Des largages que les États-Unis comptent poursuivre. Par ailleurs, l'armée israélienne confirme avoir éliminé le numéro 2 de la branche armée du Hamas.
Dans un instant sur RTL, le livre d'Anthony Delon. RTL a pu le lire en avant-première.
Et puis le football, les Bleus battent le Chili 3-2 avec un bilan mitigé à moins de 3 mois de l'Euro. Il est 7h07.
A tout de suite sur RTL.
Dans moins de 30 secondes, retour de RTL Matin. RTL Matin.
RTL 7h07, la suite du journal d'Hortense Crépin. L'histoire donnera peut-être lieu à une adaptation au cinéma, avec pourquoi pas Alain Delon dans le rôle de père de famille. RTL a réussi à lire en avant-première le tout premier roman de son fils Anthony.
Bastingage qui sort aujourd'hui aux éditions Fayard, en plein feuilleton judiciaire autour de la santé de l'acteur. Bernard Lehu, vous êtes l'un des rares à avoir pu lire ces 230 pages où la fiction n'est franchement pas très éloignée de la réalité familiale.
Alors, il est bien écrit roman sur la couverture et l'intrigue principale semble relever de la fiction. Philippe, 49 ans, écrivain pour le cinéma et le théâtre, rencontre Luna, 38 ans, actrice espagnole, fragile, instable, sujette à des addictions diverses. Entre Barcelone, Paris, la Corse ou Capri, rien ne nous est épargné de la relation toxique entre ces deux amants. Voilà pour l'essentiel de Bastingage. Mais, on le sait, un auteur glisse souvent un peu de sa propre expérience entre les pages. Ici, comment ne pas penser à Alain Delon dans le portrait que fait le narrateur de son père, prénommé Joseph, et dans l'évocation de leur difficulté à s'aimer. Je n'ai jamais su ce que Joseph pensait de moi. Était-il fier? Pourquoi le serait-il d'ailleurs, lui qui est si différent du commun des autres, si absorbé par sa propre personne? Le héros d'Anthony Delon veillera et enterrera son père, atteint d'un cancer. Quelques pages sur les 230 du livre, qui sont finalement les plus réussies d'un ensemble plutôt insipide.
Insipide, donc nous sommes prévenus. Bernard Lehu, spécialiste littérature de RTL.
Le football à présent, il faudra faire beaucoup plus à l'Euro, ce n'est pas moi qui le dis, mais Didier Deschamps après la prestation des Bleus hier soir.
Des Bleus rassurés, mais seulement à moitié après l'échec contre l'Allemagne samedi. Ils s'imposent contre le Chili pour leur dernier match de préparation avant l'annonce de la liste pour l'Euro en mai. Victoire hier soir 3-2, avec un début de rencontre raté et un but encaissé en fin de match. Bref, un constat acide à moins de 3 mois de la compétition européenne. Philippe Sanfourche.
Oui, la victoire et rien de plus. C'est sur un bilan mitigé que les Bleus quittent ce dernier rassemblement avant l'Euro. Peu d'enseignements collectifs et individuels dans une période où les enjeux en club prennent souvent le dessus. La peur de la blessure aura bridé les cadres et frustré le sélectionneur Didier Deschamps.
C'est vrai que ce rassemblement de mars, il a été plus difficile que les précédents. Je comprends qu'avec des enjeux tellement importants, voilà, qu'ils aient ça dans la tête, de gérer, pas prendre de risques. Ce contexte est particulier.
Rare satisfaction, le réveil de l'attaquant du PSG, Randal Kolo Muani, un but, une passe décisive et une confiance enfin rendue à son sélectionneur.
Bien sûr, très fier, ça fait toujours plaisir de marquer, surtout pour la réaction après le match de l'Allemagne. Après, le plus important, c'est d'être efficace aussi dans mon club, continuer sur l'avancée parce qu'il y a des gros échanges qui vont arriver.
Alors que Jonathan Clauss et Eduardo Camavinga quittent eux Marseille sur blessure, le staff de l'équipe de France va maintenant croiser les doigts pour que l'infirmerie ne se remplisse pas trop d'ici 2 mois et la préparation de l'Euro.
Philippe Sanfourche, chef de la rubrique foot de RTL. Prochain rendez-vous, l'annonce donc de la liste de Didier Deschamps pour l'Euro le 15 ou le 16 mai. Les Bleus, qui connaissent désormais leur dernier adversaire des phases de poule pour la compétition, aux côtés des Pays-Bas et de l'Autriche, ce sera la Pologne de Robert Lewandowski, l'Ukraine également qualifiée hier soir, tout comme la Géorgie pour la toute première fois de son histoire avec son entraîneur, le français Willy Sagnol. Chez les filles, Lyon, vainqueur 2-1 à l'aller, reçoit Benfica à 18h45 pour les quarts de finale, retour de Ligue des Champions.
On termine avec les courses qui ont lieu à Marseille-Borély aujourd'hui.
Départ 13h55, les pronostics de Dominique Cordier, le 5, le 6, le 3, le 2, le 11, le 9, le 14, l'outsider de RTL, le 2.
C'est Hortense Crépin qui nous proposait le journal de 7h sur RTL, il est 7h11.
RTL événement.
Et l'événement ce matin sur RTL, ce sont ces employeurs prêts à tout, vous allez l'entendre, pour recruter. Ah oui. Un séminaire gouvernemental, Hortense nous le disait, sur le travail, doit se tenir aujourd'hui, avant des annonces de Gabriel Attal sur la réforme de l'assurance chômage. Ça, ce sera ce soir à 20h. Avec ce constat, l'an dernier, 62% des employeurs reconnaissent avoir eu du mal à embaucher. Raison principale invoquée dans 85% des cas, le manque de candidats. Résultat, pour faire face, eh bien, certains n'hésitent plus à faire appel à des chasseurs de têtes qui vous recrutent devant chez vous. Bonjour Simon Marseille.
Bonjour.
Et vous nous emmenez dans l'Oise d'abord. 7,6% de chômage et là-bas, les chefs d'entreprise font appel au bus pour l'emploi qui ratisse jusque dans les villages. Illustration à Chaumont-en-Vexin, une commune de 3000 habitants.
Oui, sur le parking de la mairie, on ne voit que lui, un poids lourd jaune et blanc garé sur 2 places.
Bonjour, je me présente, je m'appelle Séverine Godefroy.
Séverine est conseillère en réinsertion. Elle fait le lien entre les employeurs et les demandeurs d'emploi.
Nous recevons des offres d'emploi, de Pôle emploi ou d'entreprise. Par exemple, des offres du secteur sud de notre département où ils recherchent des commis de cuisine. Donc si j'ai une personne qui a les compétences, je lui propose l'offre d'emploi. Ça peut aller très vite.
Très vite. Ensuite, c'est à peine une semaine pour Delphine, employeur dans le BTP. Une semaine entre le moment où elle demande de l'aide au bus et celui où elle reçoit le CV de sa future secrétaire, Barbara.
On a vraiment essayé tous les réseaux sociaux. On a même mis des affichages chez les commerçants. La boîte aux lettres était complètement vide et sans eux, je pense qu'on serait toujours en recherche aujourd'hui de notre profil. Moi, je vais faire appel à eux régulièrement pour des maçons, des peintres.
L'avantage, c'est que le bus valorise des CV qui prennent la poussière dans des villages enclavés. C'est ce qui a sauvé Barbara, découragée après plus d'un an sans travailler. Elle a enfin signé un CDI.
L'émission locale, c'est sur les villes déjà un petit peu plus grandes. Moi, je suis vraiment dans un village. Faire 30 ou 40 ou 50 km au prix où coûte l'essence aujourd'hui, ça devient tout de suite beaucoup plus compliqué. Donc le fait que les bus de l'emploi se déplacent comme ça, c'est super efficace.
Depuis 2016, dans l'Oise, 4000 personnes ont trouvé un job ou une formation grâce au bus. Dans le Lot, il y a aussi des emplois de courte durée.
Alors là, il s'agit, on le disait, de villages côté ville. À présent, certains employeurs font carrément appel à des prestataires qui recrutent directement en bas de chez vous.
Absolument. Le principe, une poignée de chasseurs arpentent les rues commerçantes, font le tour des places, des gares et vous arrêtent.
Bonjour, est-ce que vous êtes à la recherche d'un travail ?
Monsieur, est-ce que vous cherchez un emploi actuellement ?
En 5 minutes, il faut que les gens aient accroché.
Thierry Morel, propriétaire d'Etypique, société de recrutement de rue.
La première truc, c'est la peur, dire putain, ils vont nous demander du pognon, ils vont nous parler de politique. Et là, on leur dit, bah non, on aide les gens à trouver un job. On leur pose 2-3 questions pour être sûr qu'ils font partie de la cible. Vous avez un permis, vous avez une voiture. Et après, ils sont rappelés par notre cellule de recrutement.
Main dans la main avec l'employeur, ils définissent le profil type à chasser.
Par exemple, si on cherche un des compagnons, bah forcément, vous n'allez pas être interrogé si vous êtes un homme de 40 ans avec un attaché caisse en train de courir avec un téléphone à l'oreille. Aujourd'hui, notre cœur de cible, c'est les personnes qui sont en rupture avec l'emploi.
Des sociétés de recrutement de rue, c'est étonnant, d'autant qu'il existe plein de sites internet ou de réseaux sociaux spécialisés dans la recherche d'emploi. Pourquoi Simon s'embêtait à sortir pour chercher des candidats ?
Eh bien, ces plateformes en ligne, il y en a trop, elles sont saturées. Alors, pour éviter qu'un appel à candidature se noie dans un océan de petites annonces, les employeurs se distinguent. Aurélien Miseret, président de l'association Afterwork RH.
Cette offre en ligne est devenue complètement illisible. Aussi surprenant que ça puisse paraître, les entreprises ont choisi d'afficher des 4x3, ont choisi d'afficher sur leurs camions, dans des stades ou sur des flyers dans la rue, des offres d'emploi. Parce qu'en fait, les entreprises comptent sur le fait que les personnes se disent que de toute façon, elle est relativement proche de son lieu d'habitation et que ce soit facile pour elle. Ce sont des méthodes qu'on voyait en fait dans les années 90. Ça représente entre 15 et 20% de recruteurs qui vont explorer ces nouvelles méthodes.
Et pour se démarquer encore plus, certaines entreprises comme Transdev, la société de transport, organisent des jeux d'énigmes en équipe pour observer les qualités des candidats.
Des jeux d'énigmes en équipe, effectivement. Merci beaucoup, enquête passionnante. Signé Simon Marseille.
Il est 7h15.
RTL Matin.
Bien le bonjour Étienne Jarnel.
Bonjour à tous.
Ce matin, vous nous parlez d'une défaite de l'État.
Oui, ce qui s'est passé hier est une défaite de l'État, mais aussi de l'école, de la laïcité, de la République, des principes qui la fondent. À l'inverse, c'est une victoire de l'islamisme et de la peur qu'il inspire. Alors, je vais revenir sur les faits. Le 28 février dernier, le proviseur du lycée Maurice Ravel, dans le 20e arrondissement de Paris, demande à 3 élèves de retirer leur voile. Il ne fait ici qu'appliquer la loi de 2004. L'une d'entre elles refuse. S'ensuit une altercation. Et là, la machine à terroriser s'emballe.
Comment cela ? Expliquez-nous.
Le proviseur est menacé de mort sur les réseaux sociaux. Il doit être protégé. Il y a bien une mobilisation. La ministre de l'Éducation, Nicole Belloubet, vient, le soutient. Tout le monde a évidemment en tête le sort des professeurs Samuel Paty et Dominique Bernard, assassinés en 2020 et en 2023 par des islamistes. Mais voilà, hier, le proviseur a annoncé qu'il quittait ses fonctions en cours d'année scolaire. Alors, c'est pour raison de sécurité, dit un message envoyé au conseil d'administration, pour convenance personnelle, dit plutôt le rectorat, mais qu'importe, ça revient à peu près au même. La peur et la lassitude l'ont emporté, les islamistes ont gagné, la République a perdu.
Bon, on rappelle pour être complet que la jeune fille en question disait avoir été frappée au bras.
Oui, sauf que sa version n'est pas corroborée par les témoignages ni par l'académie. Elle dit elle-même que sa plainte a été classée sans suite. Elle n'a en réalité été soutenue en cela que par le collectif contre l'islamophobie en Europe, ou CCIE, héritier du CCIF, une organisation islamiste, dissoute après l'assassinat de Samuel Paty. Alors, ce sont peut-être ces gens-là, les grands vainqueurs de cette affaire, qui donnent par ailleurs une impression de déjà-vu assez désagréable.
À quoi pensez-vous en particulier, Étienne ?
À la jeune Mila, qui en 2020, vous vous en souvenez, avait fustigé visait l'islam, hein, l'islam, pas les musulmans, l'islam, et qui avait été menacée de mort. Et c'est elle qui avait été finalement exfiltrée de son lycée, pas ses persécuteurs. Alors certes, la justice a fini par passer, hein, 13 des harceleurs de Mila ont été condamnés en 2021, mais en attendant, c'est elle qui avait été exclue. Dans le cas du proviseur du lycée Maurice Ravel, la justice est aussi activée, le procès de l'un d'entre eux, de l'un de ceux qui l'ont menacé, aura lieu le mois prochain, c'est bien, sauf que là aussi, le mal est fait. Le proviseur est parti, et quand on y pense, c'est écœurant.
Étienne Jernel, directeur de l'hebdomadaire Le Point. À demain à 7h15 pour votre éditorial, Étienne.
Il est 7h18 sur RTL. Si je vous dis qu'il a redessiné Paris.
Bah, Rossmann.
Bah oui, bien sûr. Il était né, figurez-vous, il est né, un 27 mars, il y a 220 ans. Laurent Deutsch nous raconte la suite dans un instant.
Amandine Bégaud, Yves Calvi. RTL Matin jusqu'à 9h. RTL. Entrée dans l'histoire.
Bonjour Laurent Deutsch.
Bonjour à tous.
Alors Laurent, aujourd'hui, vous voulez nous parler du baron Haussmann, né justement un 27 mars.
Bah bien sûr. Comment ne pas parler de celui qui a si profondément transformé Paris au milieu du 19e siècle ? Bon alors, rapidement, je vous présente la famille.
Oui, allons-y.
Des protestants originaires de Colmar, en Alsace. Mmh. Le père est intendant militaire, le grand-père maternel, général de brigade, ah bah bon. Le grand-père paternel, commissaire aux armées. Ah oui, ça filait droit chez les Haussmann, hein, comme les avenues. Et tout ce petit monde est profondément bonapartiste. D'ailleurs, le parrain de notre futur baron Haussmann n'est autre que le prince Eugène de Beauharnais himself, le fils de l'impératrice Joséphine. Là, on est vraiment dans le gratin impérial.
Bon, effectivement, c'est très chic, mais 5 ans plus tard, l'Empire s'est effondré.
Oui, mais sous la Restauration, personne n'en a voulu au petit Haussmann qui a pu entamer une brillante carrière. Ainsi, à 22 ans, il est nommé secrétaire général de la préfecture de la Vienne, puis préfet, successivement dans le Var, dans l'Yonne et en Gironde.
Et c'est évidemment sous le Second Empire que le baron Haussmann va entrer dans l'histoire.
Oui, car Napoléon III a immédiatement compris que ce préfet qui avait redessiné Bordeaux pourrait faire des merveilles pour Paris. Il l'a nommé illico préfet de la Seine, c'est-à-dire maire de la capitale. Sa mission était simple. En pleine révolution industrielle, il fallait transformer Paris pour en faire une ville moderne, claire, aérée. Une ville qui ne serait plus la proie des rats, des mauvaises odeurs et des épidémies.
Deux gigantesques travaux donc qui ont duré tout le Second Empire.
Oui, ils ont été commencés en 1853 et vont s'achever officiellement en 1870 avec la chute de Napoléon III. 17 ans de travaux ininterrompus, toute l'infrastructure citadine bouleversée, je peux vous dire que c'était bien pire que ce que nous connaissons aujourd'hui dans la capitale.
Ah bon, ça, j'en suis pas sûr du tout.
Ah non, si, croyez-moi, c'était pas de la quiche à l'époque. Des propriétaires ont été expropriés, des locataires chassés, des rues éventrées, 25 000 maisons rasées, et parmi celles-là, la maison même où Haussmann était né. Pas de sentiment, il a lui-même renoncé à ses propres souvenirs d'enfance au nom du progrès et de l'alignement des nouveaux immeubles.
Et aujourd'hui, les Parisiens et les touristes connaissent surtout d'Haussmann le boulevard qui porte son nom.
Ah ouais, c'était son unique volonté. Il voulait que son nom soit donné à ce nouveau boulevard qui débouchait sur la rue du Faubourg Saint-Honoré, à l'emplacement même de son ancienne demeure. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a aussi une statue qui rappelle l'emplacement de sa maison.
Bon alors là, c'est la consécration suprême.
Ah bah imaginez, voir un boulevard baptisé à son nom, c'est pas mal. Mais l'empereur trouvait que ça ne suffisait pas. Alors, il a proposé à Haussmann de le faire duc. Haussmann a répliqué avec humour « Je ne veux pas être duc, mais aqueduc », car il avait fait construire de fabuleux aqueducs pour apporter aux Parisiens une eau pure et limpide.
Quel humour ! On a beaucoup critiqué le baron Haussmann pour avoir trop joué de la pioche dans Paris.
Oui, c'est vrai. On lui en veut toujours, encore aujourd'hui, d'avoir radicalement transformé la ville, d'avoir expulsé vers la banlieue des couches populaires qui ne trouvaient plus à se loger dans une ville profondément gentrifiée, comme on dirait aujourd'hui. Mais le Paris que le monde entier nous envie et que le cinéma, la télévision mettent en scène en permanence, eh bien, il reste et il restera celui du baron Haussmann.
Absolument, voilà un très bel hommage. Demain, Laurent, de qui nous parlez-vous ?
Ah, demain, on va parler d'un écrivain, lui aussi, génial et visionnaire, Jules Verne, enterré à Amiens le 28 mars 1905.
À demain.
7h23 sur RTL. Dans un peu plus de 5 minutes, le journal. Et à la une, 3 personnes toujours en garde à vue dans l'enquête sur la disparition de la jeune Lina, disparue, on le rappelle, dans l'est de la France il y a 6 mois. Et puis Gabriel Attal, lui, sera ce soir aux 20h. Le Premier ministre devrait faire une série d'annonces autour notamment de l'assurance chômage après un séminaire gouvernemental autour du travail aujourd'hui. Côté météo, Louis Baudin. On garde son parapluie. Ouais, on souffle.
Un gros soupir.
Je sors encore toute la panoplie du parfait météorologue, la pluie, la neige, les orages, le vent, enfin, il y a tout, quoi.
sauf le soleil.
Et par moment,
un petit peu.
Oh mon Dieu, mon Dieu. À tout de suite.
RTL, vivre ensemble.
Dès 15h30, comme tous les jours, Laurent Ruquier vous attend avec toutes ses grosses têtes sur RTL. Des grosses têtes qui reçoivent parfois des appels d'auditeurs nostalgiques.
Bonjour Daniel.
Oui, bonjour Laurent, bonjour à tous.
Bonjour.
Alors Daniel, qu'est-ce qu'il me dit Daniel? J'écoute les grosses têtes depuis le début, je regrette la disparition des vraies grosses têtes.
Ah.
Jean Dutour, Jacques Martin et Jean-Yann.
Oui, ben eux, ils sont
nous aussi. Nous aussi.
Qu'est-ce qu'on peut faire?
Est-ce que vous voulez l'explication de pourquoi ils viennent moins souvent?
Tête dès 15h30 et jusqu'à 18h tous les jours autour de Laurent Ruquier. Il est 7h25. Très bon réveil.
Politique, sport, culture, l'actualité complète en un clic sur RTL.fr.
Louis Baudin.
Oui.
Alors je ne peux pas être aussi complet que vous, mais enfin, en gros, j'ai compris qu'on avait des nuages, de la pluie, de la neige et même de temps en temps un petit peu de soleil.
Oui, un tout petit peu, mais c'est vrai qu'on en aura un peu cet après-midi sur le golfe du Lion. En attendant, ce matin, on a encore beaucoup d'activités autour de la vallée du Rhône, hein, de la pluie ou de la neige à basse altitude. On a 9 cm à Mende en ce moment, où il a neigé, où il neige encore un peu. On a de la neige à Grenoble, du côté d'Ambérieu, cette neige qui tient à partir de 400 mètres. Au cours de la journée, il va continuer à neiger, notamment à l'est du Rhône, sur le Jura, sur les Vosges à partir de 900 ou 1000 mètres, d'où un fort risque d'avalanche dans les Alpes. On attend plusieurs dizaines de centimètres, même chose sur le Massif central. Et puis dans les autres régions, on aura des passages nuageux, très peu d'éclaircies, et puis arrivera une nouvelle perturbation par l'ouest qui finira par donner cet après-midi des averses dans toute la moitié ouest. Alors une seule exception autour du golfe du Lion, ça devrait se dégager cet après-midi. J'ajoute du vent qui atteindra 70-80 km/h sur les côtes bretonnes, 60 km/h sur le littoral de la Corse, et puis les températures, alors on n'est pas loin des gelées en ce moment, oui, du côté de Mende, moins 1 degré, 0 au Puy, 0 à Grenoble, et cet après-midi comme hier, 9 à 12 degrés dans la moitié nord et 13 à 15 dans le sud. Allez, ça remontera un tout petit peu.
Il y a absolument de tout dans votre métier aussi.
Je vous l'ai dit, j'ai sorti toute la panoplie là, il y a tout.
Et une perspective d'amélioration.
Oui, voilà. On veut bien une petite projection sur notre week-end. Ma camarade a raison.
Une demi-journée d'amélioration, puis hop, ça recommence. Ça va être un peu.
Ah non, vous voulez dire qu'on va se retaper des trucs parfois pas trop mal pendant la semaine et que le week-end sera moche? J'ai pas bien compris.
Non, non, non.
Si, c'est alternant. C'est-à-dire que dans une même journée, il y aura une demi-journée avec un petit peu de soleil et puis une demi-journée avec de la pluie. Et je peux vous annoncer ça aussi loin que je regarde.
Un barbecue du week-end de Pâques, c'est envisageable?
Pas vraiment, non.
Ce sera plutôt 20 chauds autour effort. D'une cheminée.
Non, aucun effort en ce moment.
Bon, bah écoutez, allez, il est 7h29.
Oui, c'est mieux.
Oui.
Yves Calvi, Amandine Bégaud,
RTL Matin jusqu'à 9h. Et le journal avec Sébastien Rouxel. Bonjour Sébastien.
Bonjour Amandine, bonjour Yves et bonjour à tous. Qui va passer à la caisse pour renflouer celle de l'État? On connaît maintenant le montant du déficit pour 2023, 5,5% du PIB, un trou qu'il va falloir combler à coups de milliards d'euros d'économies. Hier matin sur RTL, Bruno Le Maire s'est dit ouvert à tous les débats. Des médicaments moins remboursés pour les plus aisés, pourquoi pas s'ils ne souffrent pas de graves maladies, c'est ce qu'il a dit. Et c'est en substance ce que vous répété les Parisiens que vous avez interrogés, Joséphine Tazdaït.
Quand on demande à Marie, postée devant la pharmacie, si elle est pour un remboursement des médicaments selon les revenus, sur le principe, c'est oui.
Ceux qui ont plus peuvent aider ceux qui ont le plus de difficultés pour essayer un peu de réduire les inégalités. Eux, ils devraient avoir une contribution un peu plus forte, je pense. Vu l'état actuel de l'endettement de la France, pourquoi c'est pas une piste qui pourrait être exploitée?
Zéla, une cliente, sort de l'officine. Pour elle, une mesure comme celle-là permettrait sans doute de réduire la consommation de médicaments.
Ça responsabiliserait un petit peu plus les gens aussi sur leur prise de médicaments, d'un côté pour leur santé et d'un autre côté pour éviter de creuser trop le trou de la sécu.
Au comptoir de la pharmacie, le responsable peine à s'imaginer comment la mesure serait appliquée, mais surtout, pas question de toucher à tout type de médicament.
Si ce sont des traitements chroniques ou pas, si c'est des traitements antibiotiques, effectivement, ça peut être intéressant. Si ce sont des personnes qui ont des traitements lourds, des traitements anticancéreux ou autres, ça peut poser problème.
Du côté des élus, les sénateurs de tous bords se disent déjà farouchement opposés à une telle mesure.
Joséphine tasse d'Aïd pour RTL. Là encore, il s'agit de faire des économies, mais aussi d'inciter au retour à l'emploi. Gabriel Attal envisage de réduire à nouveau la durée d'indemnisation des chômeurs. Il réunit ce matin son gouvernement pour un séminaire consacré au travail et il fera des annonces ce soir aux 20h de TF1.
Les premières gardes à vue dans l'affaire Lina se poursuivent à Strasbourg.
Trois personnes sont entendues depuis hier matin, un homme d'une quarantaine d'années et un couple de septuagénaires interrogés sur les incohérences dans leurs déclarations et leurs emplois du temps. Cela fait maintenant 6 mois que l'adolescente de 15 ans a disparu alors qu'elle se rendait à pied à la gare de Saint-Blaise-la-Roche à 3 km de chez elle dans le Bas-Rhin. Étienne Jernel en parlait dans son édito à 7h15. Ce proviseur menacé de mort à Paris après avoir demandé à une élève de retirer son voile. Il a finalement quitté ses fonctions pour des raisons de sécurité. C'est ce qu'indique le message transmis aux parents d'élèves. Le rectorat se contente lui d'évoquer un départ anticipé à la retraite. Nous y reviendrons dans le journal de 8h. Direction maintenant la côte est des États-Unis, Baltimore, où il n'y a plus aucun espoir de retrouver des survivants après l'effondrement spectaculaire d'un pont autoroutier hier matin. Il s'est écroulé en seulement quelques secondes après avoir été percuté par un cargo victime d'une panne. Les recherches ont été suspendues pour la nuit. Karine Otten et les 6 personnes toujours portées disparues sont désormais présumées mortes.
Oui, c'est la mort dans l'âme que le gouverneur du Maryland a annoncé la fin de l'opération de secours. Mais compte tenu de la température de l'eau, il y a peu de doutes sur l'issue fatale des personnes toujours introuvables. Toutes étaient des ouvriers en train de réparer l'asphalte de l'autoroute. Ce bilan reste surprenant compte tenu de l'ampleur de la catastrophe. Il n'y avait que 8 personnes sur le pont au moment où les 2,5 km de structure métallique se sont effondrées. Et on sait pourquoi, grâce aux communications entre les autorités qui ont été rendues publiques. Elles ont bien réussi à bloquer le trafic routier quelques secondes seulement avant que le porte-container ne percute le pilier du pont. Les opérations de recherche des corps ont été stoppées pour la nuit, mais reprendront une fois le jour levé, ainsi que celles de cartographie sous-marine pour aider à l'enquête.
Karine Otten, correspondante de RTL aux États-Unis. Je vous parlais à l'instant de l'enquête sur la disparition de la jeune Lina dans le Bas-Rhin. Eh bien, on apprend à l'instant que les 3 gardes à vue ont été levés selon une source proche de l'enquête citée par l'agence France Presse. Emmanuel Macron est au Brésil pour sceller les retrouvailles entre nos deux pays après des années de crispation sous la présidence de Jair Bolsonaro. Lui et son homologue brésilien Lula ont annoncé cette nuit depuis l'Amazonie un programme d'investissement vert visant à lever 1 milliard d'euros pour la forêt tropicale.
7h33, du vin breton et même danois bientôt sur nos tables.
Selon une étude de l'INRAE, l'Institut National de la Recherche Agronomique, le réchauffement climatique va complètement redessiner la carte des vins d'ici la fin du siècle, jusqu'à 90% des régions viticoles ne seront plus rentables quand d'autres vont se mettre à produire du vin. Ça a d'ailleurs déjà commencé, nous expliquait tout à l'heure dans RTL Petit Matin, Jérôme Baudouin. Il est le rédacteur en chef de la revue des vins de France.
En Angleterre, on produisait un petit peu de vin, mais ça y est, on sait que depuis une dizaine d'années, ils tentent de rivaliser avec les champagnes, ils font des sparkling. Le Danemark, effectivement, commence à faire du vin, un peu de Pays-Bas. Et puis, effectivement, la Bretagne. Alors, la Bretagne, on a des vignerons qui s'installent, des vignerons professionnels, et on voit que les conditions climatiques leur permettent de faire des bons vins. Alors, c'est le début, mais dans 50 ans, effectivement, peut-être que la Bretagne sera une région viticole à part entière, au même titre que la Bourgogne ou le Beaujolais, par exemple.
On ne va pas sortir le champagne, mais les Bleus ont renoué avec la victoire hier soir en battant péniblement le Chili 3-2. Un succès compliqué qui ne fera pas oublier la défaite cuisante du week-end dernier face à l'Allemagne.
Merci beaucoup Sébastien Rouxel, on vous retrouve à 8h30.
À tout à l'heure.
Il est 7h34. Dans un instant, Martial You, vous revenez sur les propos de Bruno Le Maire, le ministre qui était notre invité hier sur notre antenne. Il a expliqué que ce déficit venait notamment de l'inflation. Et alors, vous n'êtes pas du tout d'accord.
Non, disons que c'est un argument un peu surprenant et pas forcément de bonne foi.
Ah oui, vous nous expliquez tout ça dans un instant, je n'en reviens pas.
RTL Matin.
7h37, l'anglais quoi avec vous, Martial You.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
Martial, vous vouliez revenir ce matin sur ces propos tenus hier par Bruno Le Maire, qui était bien entendu sur RTL, pour commenter les mauvais chiffres du déficit. On écoute le ministre.
Effectivement, ce que nous avions peut-être sous-estimé, c'est que le fait que l'inflation baisse plus vite que ce à quoi nous étions attendus, ça fait moins de recettes de TVA, ça fait moins de masse salariale, moins d'impôts sur le revenu, moins d'impôts sur les sociétés. La perte de recettes fiscales, au total, elle est de 21 milliards d'euros.
Alors on va le dire avec courtoisie, puisque c'est le propos, cette explication nous a surpris. Pourquoi ?
Bah oui, parce que c'est tout de même un curieux paradoxe. On passé l'année 2023, parce qu'on parle bien de l'année 2023, pour ce déficit, à entendre Bruno Le Maire et Olivia Grégoire se plaindre d'une inflation galopante, à nous expliquer que le gouvernement se battait pour réduire cette inflation. Et au final, quand le combat semble sur le point d'être remporté, le ministre de l'économie nous explique que c'est mauvais pour nos comptes.
Voilà. Pourquoi Bruno Le Maire met-il ça en avant ?
Pour nous faire comprendre, une fois de plus, qu'après le Covid et le quoi qu'il en coûte, après le bouclier énergétique pour lutter contre la hausse des prix du gaz, de l'électricité ou de l'essence, le gouvernement a continué à protéger les Français, quitte à se mettre dans le rouge. La même ritournelle depuis 2020, à vrai dire même depuis les Gilets jaunes, pour nous expliquer que la situation d'aujourd'hui, c'est le fruit d'une politique qui a protégé les Français à fond perdu de l'altruisme économique.
Apparemment, vous ne croyez pas à cela.
Non, alors bon.
Ça vous fait sourire.
Oui. Attention, j'ai déjà expliqué quand même sur cette antenne que le gouvernement a pallié le manque d'accompagnement des entreprises qui n'ont pas augmenté assez les salaires pour payer le plein d'essence de course ou la facture d'électricité. Et j'ai rendu hommage d'ailleurs à Bruno Le Maire pour ça. Mais là, invoquer la baisse de l'inflation pour justifier un écart de quasiment 16 milliards dans les comptes et une erreur d'anticipation sur la croissance, c'est un peu dur à avaler.
L'inflation n'a pas joué un rôle dans les baisses de recettes ?
On parle de 2023, encore une fois. On parle de l'année du mois de mars rouge, un printemps où les prix de l'alimentaire ont flambé de 15 à 20% d'une année sur l'autre. On parle d'une année où l'inflation sur 12 mois s'est affichée à 5%. Où est-ce que vous voyez une chute de l'inflation en 2023 ?
Mais alors, qu'est-ce qui explique cette chute des recettes ?
Alors, on a refusé en fait de voir au gouvernement que notre économie était à zéro sur la fin 2023. Bruno Le Maire était venu sur RTL, d'ailleurs au cœur de l'été, se réjouir d'une croissance de 0,5% au deuxième trimestre. Méthode Coué. Nous, les Cassandres journalistes qui avions prédit une récession, on en était pour nos frais.
Oui.
En fait, il a fait semblant, parce qu'il est intelligent, Bruno Le Maire, et les fonctionnaires de Bercy aussi, il a fait semblant de ne pas comprendre ce qui se passait sur le front de la croissance.
Qu'est-ce qui se passait en l'occurrence ?
Alors, en 2023, la croissance a été de 0,9%. Mais est-ce que vous savez comment ça fonctionne, la croissance d'un pays ?
Non, mais je sens que vous allez nous l'expliquer.
Oui, c'est comme un char à voile. Il y a toujours un décalage. Quand le vent souffle fort, vous avancez très vite, bien sûr, mais quand le vent retombe, vous continuez encore d'avancer parce que vous êtes entraîné par l'élan. Début 2023, la croissance ralentit, le vent retombe, mais on est encore entraîné par la puissance de la croissance de 2022. C'est l'acquis de croissance, une sorte de force cinétique en physique. Alors, à l'été, on bénéficie de quelques beaux contrats à l'international qui relancent ponctuellement la croissance. Ça donne l'illusion que tout va bien et on finit l'année sur cette énergie-là, en roue libre, mais avec une croissance nulle.
Alors une croissance nulle que nous avons encore en ce moment.
Ah oui, parce qu'on ne bénéficie plus d'aucun coup de vent depuis des mois. Donc oui, la croissance de fin 2023 était à zéro, celle de début 2024 aussi. Ça va avoir des conséquences sur nos finances en 2024. Mais si je dois résumer la situation, les recettes de l'État n'ont pas été moins bonnes parce que l'inflation a chuté fin 2023, mais parce que les Français qui sont épuisés par 2 ans d'inflation ne consomment plus et ça, ça pèse sur la croissance du pays, bien sûr.
Merci beaucoup Martial Liu. Vos chroniques sont à retrouver sur RTL.fr et sur l'application RTL. Voilà.
Et il est 7h40 dans un tout petit instant sur RTL, un tabou qui touche un Français sur 10, celui de l'inceste. Bonjour Vaïna Diocante.
Bonjour.
Et bienvenue sur RTL. Nos auditeurs vous connaissent actrice, bien sûr. Vous publiez Accord ouvert. Je vais être très franche, c'est un livre qui secoue, qui remue.
Oui.
On en parle dans un instant.
Yves Calvi, Amandine Bégaud. RTL Matin jusqu'à 9h. RTL Matin.
Il est 7h43, vous l'avez vu au cinéma dans 99 francs, Bellamy ou encore Secret Défense. Elle brise aujourd'hui un tabou. Amandine, vous recevez ce matin l'actrice Vaïna Diocante pour son livre « À corps ouvert ».
Vaïna Diocante, je le disais, ce livre ne peut pas laisser indifférent, ne doit pas, mais ne peut pas laisser indifférent. Vous y racontez l'inceste dont vous avez été victime toute petite fille, et puis ce long combat aussi sur le chemin de la reconstruction. Car contrairement à ce qu'on dit très souvent, on peut se reconstruire après un inceste.
Oui, c'est pas quelque chose qu'on entend beaucoup, et il y a même pas mal de gens qui questionnent ma guérison, en me disant, mais est-ce que c'est bien possible ? Et moi, je dis souvent, une blessure, effectivement, quand elle est ouverte, on sent la douleur. Et quand elle est cicatrisée, on peut toucher, elle n'est plus aussi douloureuse. Et je pense que j'ai choisi ce moment-là pour en parler parce que je suis arrivée à un moment de ma vie où c'est possible de partager, je dirais, quelque chose d'un peu plus lumineux. Alors ça ne se fait pas tout seul. Une cicatrice, une plaie, elle se cicatrise pas aussi vite. Il faut du temps, il faut de l'investissement, il faut être accompagné aussi.
un livre, souvent on dit que c'est une thérapie. Dans votre cas, ce livre, il est pour les autres.
Oui.
Pour les 10% de Français qui disent avoir été victimes d'inceste. C'est énorme ce chiffre.
C'est énorme, c'est vertigineux. Et du coup, je pense que c'est aussi le but de faire tomber ce tabou énorme. C'est-à-dire d'aider les gens à arriver à entendre, à arriver à accepter cette réalité. Et ce livre, cette mise à nu, pour moi, c'était une façon... comme j'ai réglé... Enfin, oui, j'ai réglé en privé, dans l'intimité. Je suis allée guérir chaque couche de ce traumatisme. Il était temps pour moi de dire ça existe partout, absolument partout.
Et il faut le dire et l'entendre. Et vous me disiez, là, juste avant qu'on prenne l'antenne, c'est souvent plus difficile à entendre qu'à dire.
Mais en fait, je termine le livre comme ça, c'est-à-dire qu'il ne suffit pas de parler ou de hurler, encore faut-il écouter, encore faut-il être entendu. Et donc, merci déjà.
C'est votre père qui a abusé de vous. Vous aviez à peine 5 ans. Vous écrivez à un âge où le mot inceste ne veut rien dire pour moi. Et pourtant, il imprègne et façonne le restant de mon existence. Ça commence dans un bain, à l'heure de la sieste.
Oui, ça commence de manière très insidieuse. Et quand on est enfant, on n'a pas forcément la conscience de ce qui est normal ou pas, de ce qui est potentiellement destructeur ou pas. Et donc... Et on est en face de gens en qui on a confiance. Là, en l'occurrence, avec mon père, c'était vraiment mon héros. Donc oui, on a une paire de références et de barrières. Donc c'est ça qui est aussi compliqué. Et je pense que du coup, la prévention est nécessaire aussi. Parler à ses enfants, parler aux enfants de la manière la plus simple possible, leur expliquer les mots de la manière la plus simple possible.
Ça commence à 4-5 ans, ça va durer jusqu'à l'âge de 10 ans, jusqu'au jour où vous dites à votre maman, vos parents sont séparés, hein, je l'explique, oui. Vous dites à votre maman, je ne veux plus aller chez lui, plus pour le week-end, plus pour les vacances. Elle se doute de quelque chose à ce moment-là?
Oui, oui.
Elle vous envoie voir des psys?
Oui, pédopsychiatres, et je sais qu'ils veulent me faire dire ça, et je sais que c'est dangereux, et que potentiellement il y a la prison, que potentiellement il y a la séparation, et donc je refuse de parler. Mais c'est très fréquent, les enfants, quand ils... c'est une façon de dire stop, avec nos mots.
Il faudra attendre vos 17 ans pour que vous parliez, que vous portiez plainte aussi, pour sauver votre sœur. Oui, vous découvrez qu'elle aussi est abusée par votre papa, parce que votre maman vous dit qu'elle aussi, à peu près au même âge que le vôtre d'ailleurs, elle refuse d'aller chez lui.
Exactement.
Tout de suite, vous comprenez?
Ah oui, j'avais déjà eu un retour de trauma quelques mois avant, et donc là, c'était vraiment c'était le coup de grâce. Donc oui, j'ai compris tout de suite. Et en fait, je pense que j'ai pris la mesure de la gravité quand ça l'a touché elle, pas quand ça me touchait moi. C'est assez fréquent, c'est-à-dire que quand ça touche les gens qu'on aime, c'est beaucoup plus douloureux que quand c'est pour soi, étrangement.
Devant le juge, au procès, votre papa nie les faits. Il va même dire que vous êtes une menteuse, c'est vous qui l'avez harcelé pendant qu'il prenait son bain.
Oui, il est dans un mode de survie. C'est ce que je dis, c'est qu'il est, prêt à sacrifier un membre comme un animal pris au piège. Donc, et je dis que ce membre, c'est moi, parce qu'effectivement, là, on n'est plus dans un rapport père-fille, on est dans un rapport où il veut sauver sa peau. Et je le comprends, enfin, je pense que c'est... Je peux le comprendre, même si ça a été extrêmement douloureux.
Il a été condamné à 3 ans de prison, dont un avec sursis. Il vous a clairement, et vous le dites tout au long du livre, pourri la vie. Je le dis avec un mot très trivial et c'est beaucoup plus profond. Et pourtant, et alors ça, je dois vous dire que j'ai été complètement scotchée parce que vous lui dédiez ce livre. Mm-hmm. On ouvre votre livre et il y a marqué « À mon père ». On ferme le livre sur une formidable lettre d'amour que vous lui écrivez.
Oui.
Vous comprenez que ça puisse...
Ah oui, ça, je comprends que ça puisse choquer ou même qu'on puisse ne pas...
Non, mais en tout cas, ça interpelle. Comment on peut aimer celui qui vous a fait vivre
un... Alors, vous savez, j'aime beaucoup cette phrase qui dit « Un enfant abusé n'arrête jamais d'aimer ses parents, il arrête de s'aimer lui-même. » Et ça, il faut bien le comprendre. C'est-à-dire que tout le parcours de reconstruction, c'est de réapprendre à s'aimer et de se récupérer soi. Mais l'amour de ses parents, il est là. Et c'est ça qui est dur. Alors après, ça peut se transformer en haine. Mais la haine, c'est encore de l'amour. C'est le pendant inverse de la manifestation de l'amour pur. Mais je lui ai dédié ce livre parce que sans lui, cette histoire n'aurait pas été écrite. Donc je lui rends, quelque part, la responsabilité de cette histoire. Et j'ai voulu terminer par une lettre d'amour, mais plus que d'amour, de pardon. Mmh. Parce que je pense que c'est la clé aussi de la reconstruction. Si j'ai pardonné, j'ai pardonné aussi pour moi. pour récupérer mon pouvoir, pour ne pas lui donner justement ce pouvoir de détruire ma vie, mais au contraire de me dire voilà, c'est ma vie sera belle et je t'offre ce pardon et j'offre le pardon aussi à mon père enfant. C'est-à-dire que je le vois tout d'un coup comme un enfant. Je me dis, cet enfant a probablement vécu aussi des abus ou des choses terribles ou des blessures. Et donc, je m'adresse à lui, enfant, et je lui offre mon pardon comme une boucle qui est bouclée quelque part. C'est-à-dire, voilà, tu n'as pas réussi à me détruire et tu peux partir maintenant. Je ne sais pas si c'est libre parce que ça dépend de lui, mais en tout cas, moi, je peux continuer ma vie libre.
Dans ce livre, vous vous adressez aussi aux enfants victimes et puis aux agresseurs. Et puis, vous parlez du milieu du cinéma, sa multitude de petits abus. Vous citez qu'un seul nom, d'ailleurs, dans ce livre, celui de Benoît Jacquot, contre qui, je le rappelle, Judith Godrèche a porté plainte. C'est volontaire de le citer, lui ?
Au départ, je ne voulais pas le citer parce que je voulais citer personne qui m'a fait du mal. Je ne voulais rendre hommage qu'à ceux qui ont été bénéfiques dans ma vie. Et en fait, c'est une raison aussi particulière. J'ai pas voulu nommer parce que je trouve que c'est un peu l'arbre qui cache la forêt et je voulais nommer les actes plus que les personnes. Je trouve que quand on s'attache à la personne, on enlève l'universalité du problème, alors que j'avais envie que le lecteur puisse y apposer son visage, son nom et puisse pouvoir s'identifier à ce qui se passe. Donc c'était un choix volontaire. Et pourquoi Benoît ? Parce que avant la sortie, Judith a effectivement décidé de porter plainte et je voulais être là en backup pour empêcher Benoît de la poursuivre en diffamation. C'est de la sororité, quoi.
Comment vous avez vécu justement ces dernières semaines ? Le discours de Judith Godrèche, par exemple, au César ou encore la réaction du milieu du cinéma ?
Bon, dans le milieu du cinéma, on voit qu'il y a quand même pas mal de résistance encore. Il faut que chacun prenne sa part de responsabilité, qu'on arrête l'hypocrisie générale. Et là, on commence à voir qu'il y a un intérêt des médias de vraiment comprendre. Mais chacun a sa part. On a fait partie de ce système et on l'a laissé se développer. Et donc maintenant, c'est le monstre qu'on regarde en face et qu'on met à terre ensemble. On ne pourra pas y arriver si on ne le fait pas ensemble. Et j'aimerais que ceux qui ont mal agi ou qui ont fait du mal ou du tort puissent se dire « Oui, effectivement, j'ai peut-être inconsciemment, par manque de conscience, et j'en suis désolée. »
Vous dites « Il suffirait peut-être qu'un seul de ces hommes mis en cause assume sa part de responsabilité ou présente des excuses. » C'est ce que vous leur dites ce matin à ces hommes que vous ne citez pas dans le livre.
Pareil. Mais oui, parce que je ne suis pas en colère contre eux. Et donc je leur dis « Mais voilà, c'est noble de demander pardon. »
Mais comment vous pouvez ne pas être en colère ?
Je n'ai pas dit que je ne l'ai jamais été. Je l'ai été, mais la colère, c'est une émotion qui nous traverse et on peut en faire quelque chose de beau. Ça se transcende, c'est une émotion naturelle et qui est peut-être très nécessaire aussi pour faire changer les choses dans une société. Donc, je n'ai pas peur de la colère et je ne la rejette pas. Mais je n'en suis pas là aujourd'hui. Voilà.
Voilà, je le disais, ce livre ne peut pas laisser indifférent. C'est aussi plein d'espoir. Et je voulais juste citer une phrase de votre fils. « Maman, tu es une balle. Lorsque tu tombes, tu rebondis toujours plus haut. » Ben, vous êtes une sacrée balle, Vaïna. Votre livre, ça s'appelle « À corps ouvert ». C'est publié chez Robert Laffont et ça sort demain. Merci infiniment.
Merci.
Après ce livre, « Je peux vivre ma vie libre », venez-vous nous dire, Vaïna Giocante. Vous restez avec nous puisque vous êtes dans l'œil de Philippe Cavrivière.
On va rire un peu.
Ah oui. Oh oui.
C'est important.
RTL. RTL. L'œil de Philippe Cavrivière.
7h55, Philippe Vaïna Giocante est resté pour votre chronique. Elle vient nous parler de son livre à corps ouvert, livre sur l'inceste qu'elle a subi. C'est
la fête. Oui, arrêtez.
Ah, des Miss Roussos, tu nous manques. Saleté de Panari. Bonjour Vaïna. Alors c'est amusant parce que vous arrêtez votre phrase à Vaïna Giocante est resté pour votre chronique.
Oui.
J'aurais été le chroniqueur le plus heureux de France. J'aurais eu le sourire béat de Pascal Praud recevant Marion Maréchal. Mais c'est la fin de votre phrase pour son livre sur l'inceste qui me dit que le train du rire peut rester en gare avec un thème pareil. Oui, car le thème de l'inceste est à l'humoriste ce que l'incontinence fécale est au danseur de tango argentin. Une contrainte qui peut nuire gravement à la fluidité de la performance artistique. Je crois même que c'est éliminatoire pour Pompette.
Bon, écoutez, c'est pas faux. Parlez-nous du livre de Vaïna Giocante. Ouais. D'abord, est-ce que vous l'avez lu ?
Mais enfin, Yves, comment osez-vous ? Pardon, c'est un peu surjoué, je m'en rends compte. Alors, Vaïna, je vais être franc. J'ai pas lu votre livre, mais j'ai très envie et je vais le faire. Hier, on recevait Bruno Le Maire.
Oui.
J'ai pas lu son livre non plus, mais la comparaison s'arrête pas. Inceste, harcèlement, comportement abusif, prédateur sexuel, Vaina, votre livre à cœur, corps ouvert est un ouvrage essentiel, mais je ne le qualifierais pas de feel good. C'est-à-dire que les chances sont assez minces de le voir adapté au cinéma avec Kev Adams, Didier Bourdon et Chantal, Chantal Latsou. Et surtout avec Chantal Latsou dans le rôle de Vaina enfant.
Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est pas possible, mon père est un salaud.
Il y a des salauds partout.
Ouais, là, elle le fait mieux que moi. C'est une imitation.
Bon, écoutez, madame Vaina Giocante nous parle du drame de l'inceste avec calme, une certaine distance. Ça s'appelle la résilience, je crois.
Exactement. Vaina, vous êtes l'incarnation de la résilience chère à Boris Cyrulnik. Boris qui a dit « On ne parle de résilience que s'il y a une reprise d'un type de développement, une déchirure raccommodée. » Et on compare la résilience à l'art du kintsugi, art traditionnel japonais qui consiste à réparer un objet en soulignant les cicatrices avec de l'or au lieu de les cacher. Mmh. C'est ça le kintsugi.
Ah, on ferme bien sa gueule, hein, hein, quand je bosse.
Là, vous nous avez tous calmés, là.
On se fait chier, mais on apprend des trucs. Mais on se fait chier, il y a moins de vannes. Bon. Boris Cyrulnik qui a dit aussi à sa femme « Dis donc, Florence, t'as suivi Nesreg et Natacha Saint-Pierre sur Danse avec les stars ?»« Tu crois que c'est laquelle des deux, la connasse ?» Et Florence de répondre « Les deux ». Et c'est pas faux. Comme quoi, on peut être le plus grand psychiatre français et s'intéresser à de l'actu de merde. Mais ici, à RTL, on préférera toujours Boris à Gérard Miller, car lui garde son froc et sa dignité en séance. Le concept de résilience devient grand public. Vaina, vous avez grandi dans le sud, comme moi, ex-Marseille, tout ça. Et c'est vrai, il n'est pas rare qu'une jeune Instagrammeuse locale se fasse tatouer « Tout ce qui ne me tue pas me rend moins mort ». J'ai le doute, tatouez pas. Tout ce qui me tue pas me rend plus mort. Non. Tout ce qui me retue pas me rend moins de tort. Bon, je me rappelle plus, faites-moi un beau tribal avec une tête de loup, c'est mieux. C'est joli aussi, ça va avec tout.
Vaina Giocante dénonce un trafic illicite de jeunes filles dans le monde du cinéma et a déclaré on peut collectivement mettre ce système à terre.
Exactement. Et il y a une vraie inégalité sexuelle dans le cinéma. On a tous vu la poitrine de Sophie Marceau, d'Emmanuel Béart ou de Léa Seydoux. Oui. On compte en revanche très peu de plans iconiques du cinéma français sur les testicules de Louis de Funès, de Jean Reno ou de Gérard Jugnot. Alors, vous n'avez pas dommage. Le film en tête, mais voilà. Alors, c'est pas non plus comme s'il y avait une demande générale de plus-value esthétique d'un scrotum ridé qui se balance au gré du vent. Me semble pas évident. Ding, 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 ding. Alors, mais cette différence de traitement entre le corps du comédien et celui de la comédienne témoigne évidemment du machisme qui gangrène le 7e art et plus généralement la société. Putain, j'ai tout donné sur cette phrase. Si je ne suis pas invité au prochain festival de Cannes, je ne comprends plus rien. En revanche, messieurs, ne m'envoyez pas de photos de scrotum. Ce n'était pas une demande, ni mesdames non plus. La moyenne d'âge des auditrices d'RTL est de 78 ans. Je n'y tiens pas. Et puis en plus, vous allez vous blesser en vous penchant. C'est le prix des hanches, connerie d'iPhone.
Bien, alors sans transition, nous recevions Bruno Le Maire hier pour parler du déficit public de la France.
Oui.
Il a dérapé à 5,5%. On est loin des 4,9% prévus par le gouvernement.
Oui, le gouvernement français n'est pas très bon en prévision. Heureusement que c'est Louis Baudin et pas Bruno Le Maire qui fait la météo.
Merci.
Demain, il pleuvra sur une moitié nord du pays, où il fera peut-être soleil. Difficile de savoir. Au sud de la Loire, les températures seront soit au-dessus, soit en dessous des normales saisonnières. Bon, ce sera un des deux, c'est certain. Le plus simple, c'est donc d'attendre pour être fixé. Le soleil se lèvera à 6h et des brouettes. Et nous fêterons la Saint-Bernard. Ou José, ou Catherine. Enfin, j'en sais rien, vous n'avez qu'à regarder sur le calendrier, bande de feignasses.
On vous retrouve à 8h30. Merci d'être resté avec nous, Vaina Giocante. Bonne journée à vous.
Bravo.
Bon travail. Il est 8h.
RTL Matin.
Avec Amandine Bégaud et Yves Calvi.
Et le journal avec Olivier Bois. Bonjour Olivier.
Bonjour Amandine, bonjour Yves, bonjour à tous.
À la une ce matin, les chômeurs vont-ils payer la facture de la rigueur?
Face à la flambée du déficit, Gabriel Attal veut rouvrir le dossier de l'assurance chômage. La durée d'indemnisation, les montants versés, qu'est-ce qui est sur la table? On va faire le point avec Mathilde Piquet. Dans ce journal également, les trois gardes à vue levés cette nuit dans l'enquête sur la disparition de Lina. Un proviseur qui quitte ses fonctions à Paris après avoir été menacé pour une affaire de voile à l'école. La nouvelle numéro 2 du RN pour les européennes qui a tout fait pour rentrer au gouvernement en décembre dernier. Oh. Et puis le stress des coiffeurs, pas à cause de nos bigoudis, mais à cause de nos confidences. 2000 heures de conversation personnelle par an. Oh. Et vous l'entendrez quand vous coiffez le mari, la femme et la maîtresse dans le même salon. Il faut faire un peu attention à ce qu'on dit.
L'Arabie Saoudite aura-t-elle un rôle clé pour la paix au Moyen-Orient? À 8h20, nos confrères journalistes Georges Malbruno et Christian Chéneau nous dressent le portrait passionnant de Mohamed Ben Salman, le prince héritier d'Arabie Saoudite.
Juste avant le surf de l'info, Cyprien Signy, vous surfez ce matin avec Bruno Le Maire.
Absolument, il était chez nous hier et je peux vous dire qu'il m'étonne. Hein. Il y a un trou de 18 milliards d'euros, mais alors ça n'a pas l'air de trop l'inquiéter finalement.
RTL Matin. Et justement, d'abord, face à ce déficit qui dérape, il n'y a pas 36 manières de refroidir la machine, hein, comme le disait Bruno Le Maire effectivement sur RTL hier. Économiser d'un côté et de l'autre, faire rentrer de l'argent dans les caisses de l'État. Voilà comment l'a résumé hier Gabriel Attal devant les députés, avec ce mot « rigueur » qu'il a répété à deux reprises.
Nous allons poursuivre sur cette voie de rigueur et de responsabilité avec toujours un fil rouge, c'est celui du travail. C'est ce que nous allons poursuivre avec la réforme de l'assurance chômage parce que plus nous aurons de Français qui travaillent, plus nous aurons de possibilités d'équilibrer nos finances.
Avoir plus de Français qui travaillent, c'est donc l'objectif de ce séminaire gouvernemental qui va se tenir aujourd'hui. Bonjour Mathilde Piquet.
Bonjour.
Et vous avez eu pour RTL le programme des discussions?
Oui, c'est un emploi du temps studieux qui attend l'ensemble des ministres du gouvernement. Ils vont plancher sur trois thèmes. D'abord, inciter au retour à l'emploi. Là, il faudra trouver la recette pour réduire le taux de chômage et s'approcher du plein emploi. Deuxième sujet sur la table, comment l'emploi peut-il mieux rémunérer? Ici, il sera question des salaires et de la désmicardisation, formule utilisée par Gabriel Attal lors de sa prise de fonction. Conclusion de ce séminaire, enfin prévue autour des nouveaux modes de travail, la semaine en 4 jours ou le télétravail.
Et alors sur la partie économie, Mathilde, Gabriel Attal veut donc ouvrir le dossier de l'assurance chômage. On comprend assez bien que le gouvernement se trouve trop généreux en matière d'indemnisation.
Oui, les pistes évoquées en coulisses sont révélatrices. Réduire la durée d'indemnisation des chômeurs de 18 mois aujourd'hui à 14 mois et demi, accentuer la dégressivité des allocations ou encore durcir les conditions d'accès à l'indemnisation. Aujourd'hui, pour en bénéficier, vous devez avoir travaillé au moins 6 mois au cours des deux dernières années. L'option envisagée par Matignon, augmenter cette durée minimale. L'idée, c'est d'inciter les salariés à rester plus longtemps dans leur emploi. Malgré tout, la marge de manœuvre du gouvernement reste limité, car l'assurance chômage est gérée par les partenaires sociaux. Vent debout contre une telle réforme, ils demandent plus de dialogue. Leur dernier accord sur les règles de l'assurance chômage n'a même pas encore été validé par le gouvernement.
Merci beaucoup Mathilde Piquet. Le Premier ministre viendra donner les premiers arbitrages ce soir sur le plateau du 20h de TF1.
Il sera interrogé sur les autres sujets d'actualité, probablement sur le cas de ce proviseur à Paris qui a dû quitter ses fonctions.
Oui, puisque Gabriel Attal estimait par exemple le 13 mars dernier dans Le Monde que la laïcité était, je cite, plus que jamais menacée à l'école. Or, il se trouve que le proviseur d'une cité scolaire dans le 20e arrondissement de Paris a quitté ses fonctions, le rectorat confirme, alors qu'il avait reçu des menaces de mort sur Internet après une altercation avec une élève pour qu'elle enlève son voile. Vous êtes avec nous, Vincent Serrano. Il s'en va bien pour des raisons de sécurité.
Oui, le mail qu'il envoie vendredi à ses collègues est clair. J'ai finalement pris la décision de quitter dès ce soir mes fonctions de proviseur par sécurité. Pour moi et pour l'établissement. Il les remercie ensuite pour leur soutien, leur précise qu'il sera toujours content de prendre un café avec eux. Lundi, un nouveau proviseur le remplace et hier, un message est envoyé aux parents, élèves, enseignants et membres du conseil d'administration du lycée où il est de nouveau précisé que ce départ est lié à des raisons de sécurité. Son remplaçant ajoute qu'il est missionné pour assurer l'intérim jusqu'au mois de juillet et demande à la direction, à la communauté scolaire, de rester soudée pour faire face à ces situations exceptionnelles. Il faut dire que les menaces de mort visant l'ancien proviseur étaient prises très au sérieux. Un homme de 26 ans a été arrêté, doit être jugé le mois prochain à Paris. Un autre interpellé, placé en garde à vue, a depuis été remis en liberté. Alors, le rectorat ne confirme pas ce départ pour des raisons de sécurité, mais évoque des convenances personnelles, je le cite. Il a été décidé, au vu des événements qui ont marqué ces dernières semaines, de leur médiatisation et de l'impact qu'ils ont pu avoir sur lui, de lui accorder un départ anticipé en vue de sa retraite.
Merci Vincent Serrano. Ce départ est une défaite de l'école, de l'État et de la laïcité. Voilà ce que disait tout à l'heure à 7h15 Étienne Jernel dans son édito que vous retrouvez sur le site et l'application RTL.
À Strasbourg, dans l'affaire de la disparition de Lina, les gardes à vue des trois personnes interpellées hier ont été levées cette nuit.
Oui, la jeune fille de 15 ans a disparu, on le rappelle, il y a 6 mois, alors qu'elle était partie de son domicile pour rejoindre à pied la gare pour aller ensuite à Strasbourg. On est sur place avec vous, Yannick Collomb. Bonjour.
Bonjour.
Aucune charge donc retenue contre ces trois personnes.
Et oui, il n'y a aucun élément incriminant. Les trois personnes ont donc été relâchées cette nuit. C'est ce que nous confirme une source proche de l'enquête. L'objectif de ces auditions était de fermer des portes, comme le disent les gendarmes, car à défaut de pistes privilégiées, il faut vraiment examiner toutes les hypothèses. Ce quadragénaire et ce couple de septuagénaires avaient été placés en garde à vue hier parce que ce sont des habitants du secteur qui avaient des incohérences importantes dans leur emploi du temps le jour de la disparition de Lina. Le couple de septuagénaires indiquait par exemple avoir vu l'adolescente de 15 ans ce jour-là et les enquêteurs avaient pu déterminer que c'était matériellement impossible pour eux. Le quadragénaire était lui aussi très flou sur ses activités de cette journée. Les enquêteurs devaient donc vérifier que ces trois personnes s'étaient trompées de bonne foi, que cela ne cachait pas quelque chose de plus grave. Le doute a donc pu être levé après plusieurs heures de garde à vue, mais le mystère sur la disparition de Lina reste entier plus de 6 mois après.
Merci beaucoup Yannick Collin, correspondant RTL à Strasbourg. À retenir de l'actualité à l'étranger, il n'y a plus d'espoir à Baltimore de retrouver des survivants. Les 6 personnes portées disparues après l'effondrement de ce pont sont présumées mortes selon les autorités. Il s'agissait essentiellement de personnel. C'est un cargo qui a percuté l'un des piliers du pont. Il avait pu donner l'alerte et la circulation avait été coupée. Emmanuel Macron lui est avec Lula pour une visite d'État vouée à marquer le rapprochement entre la France et le Brésil. Hier soir, les deux hommes ont annoncé un programme visant à lever 1 milliard d'euros d'investissement vert pour l'Amazonie brésilienne et française côté Guyane.
8h07, pendant ce temps, une révélation du Canard Enchaîné qui embarrasse le Rassemblement National.
Oui, le parti de Marine Le Pen veut gagner les européennes avec cette double stratégie, taper sur Emmanuel Macron et élargir à droite. Il était donc très content d'avoir attiré en deuxième place de la liste de Jordan Bardella Malika Sorel, ancienne proche de Nicolas Sarkozy et de François Fillon. Sauf que le Canard nous apprend qu'elle a tout tenté en décembre pour entrer au gouvernement, Julien Fautrat.
Oui, macroniste en janvier, RN en mars. Il faut sauver le soldat Sorel. Se désespérait hier soir un membre du parti. La candidate, elle, assume tout.
J'assume. J'ai eu des échanges avec Emmanuel Macron en décembre. Il a récupéré quelques éléments de langage pour ses vœux aux Français. J'ai redit ma volonté d'aider la France, en particulier sur les questions de l'éducation. Mes idées, Emmanuel Macron ne veut pas les porter et j'estime qu'ici, là où je suis, je peux porter et mener le combat que j'ai toujours mené.
On se souviendra aussi de ces mots, se confie au Figaro. Mon choix relève de l'évidence. Bon, ça ne l'était pas quelques semaines avant. Et puis il y a la teneur des SMS envoyés au chef de l'État, des SMS réguliers, très insistants. Ayez le courage de vous entourer de personnes qui vous diront les choses. Un autre message. Pour être ministre de l'Éducation nationale, la moindre des choses est d'avoir mis ses propres enfants à l'école publique. Elle voulait alors la place d'Amélie Oudéa Castéra.
Merci beaucoup Julien Fautrat. À propos des européennes, le débat sur le CETA ne sera pas présenté à l'Assemblée avant ces élections. Les sénateurs, on le rappelle, ont retoqué le traité de libre-échange avec le Canada au grand dam du gouvernement qui assume ne pas vouloir que les oppositions, je cite, « instrumentalisent ce débat en pleine campagne ». Et puis les catastrophes climatiques en France ont coûté 6,5 milliards d'euros aux assureurs en 2023 qui s'inquiètent donc du changement d'échelle et de l'accélération de ces éléments dévastateurs. Et puis enfin, l'AFP annonce à l'instant que c'est le jardin des Tuileries qui a été choisi pour accueillir la flamme olympique et ce, oui, pendant toute la durée des Jeux de Paris du 26 juillet au 11 août prochain.
On en vient à présent à cette étude du groupe L'Oréal sur la charge mentale qui pèse sur nos coiffeurs.
L'Oréal qui a fait une étude dans 6 pays différents et figurez-vous qu'en plus de nos coupes, il passe en moyenne 2000 ans par an à avoir des conversations qui n'ont rien à voir, alors sur la pluie et le beau temps parfois, mais pas seulement. Ils écoutent aussi les confidences et parfois les souffrances des clients. Dimitri Ramelot, vous avez rencontré à Vittel un coiffeur qui témoigne précisément de ce stress qu'il ressent parfois.
Oui, et ce jeune patron avoue recueillir chaque jour les confidences de clientes, souvent futiles, parfois beaucoup plus graves.
Des problèmes d'enfance, des viols qu'elles ont subis, sur un mariage raté, sur un concubin non fidèle. Et le concubin ou la concubine vient le lendemain ou la semaine d'après, on se doit de faire comme si on ne savait rien.
Et pourtant, il refuse d'être considéré comme un thérapeute.
J'ai une oreille, mais je ne suis pas psychologue. J'ai énormément d'empathie. Quand les cas sont graves, inévitablement, vous rentrez à la maison avec ça dans la tête. Donc, charge mentale.
Et Fabrice ne confie jamais de secret à l'autre coiffeur du salon et réciproquement, et s'interdit également de sortir de son rôle de commerçant.
J'aimerais tellement les aider. Mais malheureusement, j'ai un métier et il faut que je m'arrête où la limite du métier s'arrête. C'est-à-dire que s'il y a des conseils à donner, je ne peux pas en donner.
Vous diriez que certaines viennent plus pour se confier que pour se faire coiffer ?
Bien sûr.
Et le patron estime gérer correctement la charge mentale grâce à son couple et ses autres activités, mais serait néanmoins intéressé par une formation pour appréhender au mieux mieux les situations les plus délicates.
Et justement, merci Dimitri Ramelot, et bien le groupe L'Oréal propose précisément des demi-journées de formation à certains de ses coiffeurs pour faire face à
cette charge. Mais vous racontez votre vie à votre coiffeur, vous ?
Non, moi ça va très vite, le coiffeur.
Ah bon, je voulais faire remarquer que moi c'est plutôt la conversation de mes coiffeurs qui parfois m'avait un petit peu pesé. Mais enfin, bon,
avec Louis, on n'a pas ce problème.
Ouais, voilà. Et ça, j'ai pas osé vous le dire.
Vous rutilez, vous êtes magnifique. Ah
ouais. Allez, je termine juste avec un mot de foot et l'équipe de France qui s'est imposée 3-2 hier soir face au Chili, match amical. Mais pas brillant, en tout cas Didier Deschamps a reconnu que pour être plus performant en juin, il faudra faire beaucoup plus. Et d'ailleurs, la Pologne s'est qualifiée pour l'Euro 2024 et sera précisément dans le groupe de l'équipe de France en phase de poule.
Le journal de 8h nous était proposé par Olivier Bois. Il est 8h, bientôt 12 minutes. On fait un point météo avec vous, Louis Baudin.
Oui, on a besoin parce qu'on a encore de la pluie et de la neige en ce moment, là autour de la vallée du Rhône, des 400 mètres, de la neige encore sur Grenoble. Et puis cette neige, elle va tomber tout au long de la journée sur les Alpes, sur le Jura, sur les Vosges, à partir de 800 ou 900 mètres, tout ça apportant donc un fort risque d'avalanche dans les Alpes, notamment les Alpes du Sud où on a eu plusieurs dizaines de centimètres, neige qui tombe également sur le Massif central. Et puis dans les autres régions, bon, on a une petite accalmie là ce matin, mais cet après-midi c'est reparti pour une nouvelle perturbation qui apportera des nuages, de la pluie, du vent jusqu'à 70-80 km/h sur les côtes de la Manche. Puis le ciel se dégagera autour du Golfe du Lion quand même cet après-midi. Les températures, 9 à 12 degrés dans la moitié nord, à peu près comme hier cet après-midi, 13 à 15 degrés dans la moitié sud. Là, ça remonte un petit peu par rapport à hier.
Tous les détails de notre météo à 7 jours, il sera 8h30.
RTL vous explique.
Tous les jours, juste après le journal de 8h, on s'arrête sur un point de l'actualité. Et ce matin, RTL vous explique pourquoi le chocolat coûte de plus en plus cher. Écoutez bien ces chiffres. 10 000 euros la tonne de cacao. 10 000 dollars, pardon. Bon, on n'est pas très très loin. La tonne de cacao hier à la bourse de New York. Et c'est trois fois plus que l'an dernier à la même période. Pas forcément, bien sûr, une bonne nouvelle à quelques jours de Pâques. D'autant que ça n'est qu'un début, a priori. Bonjour Pierre Herbulot.
Bonjour Amandine.
Pourquoi le prix du cacao explose ?
Il y a deux grandes raisons à cette augmentation extrêmement violente, plus de 100% en un an. D'abord, les conditions météorologiques. En Afrique de l'Ouest, la Côte d'Ivoire et le Ghana, deux des principaux pays producteurs, ont été touchés par le phénomène climatique El Niño, des sécheresses qui mettent à mal les cacaoyers après un automne avec des pluies trop abondantes. Ces variations de climat affectent les cabosses qui parviennent à pousser. Elles sont malades et impropres à la consommation. Le rendement diminue alors que dans le même temps, la demande mondiale de cacao progresse et ça tire les prix vers le haut.
Oui, mais Pierre, de là à tripler le prix du cacao, quand même, la production, elle n'a pas été divisée par 3.
Non, c'est vrai. L'autre explication, c'est la spéculation. Le cacao est un cours de bourse. C'est une bulle spéculative, me disait hier Charles Natti, le directeur de la marque de chocolat Dengo. Des traders achètent leurs fèves aux petits producteurs quelques centaines d'euros la tonne. Ils stockent et revendent quand le cours monte. C'est ce phénomène couplé au déséquilibre entre l'offre et la demande qui explique l'explosion du prix de ce que certains appellent désormais l'or brun. Le cacao coûte aujourd'hui plus cher que le cuivre.
Et qu'est-ce que ça va avoir comme conséquence sur notre chocolat ? Est-ce qu'il va nous coûter plus cher ?
Oui, mais pas celui de Pâques. Les industriels achètent leurs matières premières largement en avance, en fin d'année en général. C'est donc plutôt le prix des boîtes de chocolat de Noël et des œufs de Pâques 2025 qui risque de flamber. Alors pas de triplé non plus, parce que le cacao n'est qu'une des composantes du prix du chocolat. Il faut ajouter le coût du transport, le marketing et surtout la main-d'œuvre. Mais ça reste un sacré coup dur. Avant même ces cours records du cacao, l'industriel Lindt a prévenu au début du mois ces prix, qui ont déjà progressé de 10% l'an dernier, vont encore augmenter cette année et l'année prochaine.
Bon, on en profite dès cette année, donc. Hein. Ouais. Enfin, comme ça, on anticipe. Merci beaucoup, Pierre Herbulot.
Le cacao coûte aujourd'hui plus cher que le cuivre, c'est vraiment l'information de cette chronique. Merci beaucoup. Il est 8h15.
RTL Matin, le surf de l'info.
Sébastien Sini, vous surfez aujourd'hui avec notre ministre Bruno Le Maire, ministre de l'économie.
Oui, assez étonnant. Hein. Je le trouve quand même très détendu du déficit. Hein. Malgré un trou de 16 milliards. Non mais il ne bouge pas, il y croit encore.
Ma détermination à repasser sous les 3% de déficit public en 2027, elle est intacte, je dirais même qu'elle est totale.
Ouais, totale. Mais voilà. Bon, quand même, prêt à tout pour trouver des sous hier sur RTL.
Je suis ouvert à tous les débats.
Voilà. Ouvert à tous les débats. Alors allons-y. Tiens, augmenter les impôts, par exemple.
Et je reste totalement opposé à toute augmentation d'impôts sur nos compatriotes.
Ah donc, tous les débats, sauf les impôts. Bon alors, Amandine tente, hein. Augmenter les taxes sur les dividendes, peut-être.
Je dis que je suis opposé. Les dividendes sont taxés à 30%.
Ok, non plus. Mais alors sinon,
Je suis ouvert à tous les débats.
Ouais, presque tous, en fait. Hein. Bon, de toute façon, cette histoire de déficit, on va pas se mentir, en vrai, bah, ça l'inquiète pas tant que ça, hein. Comme il le dit lui-même.
Ça n'est pas un drame.
Voilà, hein, cool. Il a aussi expliqué que...
Il y a un petit problème de parcours.
Voilà, c'est juste un petit problème de parcours. Hein. En même temps, ce même Bruno Le Maire, en janvier dernier, c'est pas vieux, c'était il y a 3 mois, il expliquait quand même...
Pour dire les choses plus brièvement, le tournant du redressement de nos finances publiques a été pris. Il sera tenu fermement.
Ah bah oui, on voit, hein, 16 milliards quand même. Et il ajoutait...
Une seule exigence, le désendettement accéléré de la nation, la tenue rigoureuse des comptes publics.
Ah bah oui, c'est bien parti, dites donc. De toute façon, il est en roue libre, Bruno, en ce moment. Hier au Sénat, juste après RTL, il a quand même lâché... Alors attention, ça peut surprendre.
Le cannabis, c'est cool. Et la cocaïne, c'est chic.
Bon, attendez, on peut le remettre, là.
Oui, s'il vous plaît. Oui.
Le cannabis, c'est cool. Et la cocaïne, c'est chic.
Ah ouais, non, ça va pas du tout, Bruno, là. Ah, on me signale que la phrase n'est pas terminée. Ah.
Voilà, représentation sociale des drogues. La réalité, c'est que les deux sont des poisons.
Ouf, oui, quand même. Non, il est détendu, mais il faut peut-être pas exagérer non plus. Hein.
Vous nous avez fait peur.
Ah ben, oui. Moi aussi, j'ai eu peur en écoutant.
Merci beaucoup, Cyprien. On vous retrouve ce soir, RTL, bonsoir, dès 18h.
Au cœur de l'actu, info, décryptage et bien sûr, humour et divertissement avec comme grand témoin en deuxième heure, ça va vous faire plaisir, MC Solar. Il est de retour.
Ah,
on aime bien. Il va nous offrir un live.
Ah ouais, super.
Ouais. Génial.
Dans un instant, c'est le portrait d'un personnage bien particulier que nous proposent nos confrères Christian Chéneau et Georges Malbruno. Mohamed Ben Salman, le prince héritier d'Arabie Saoudite, un homme imprévisible dans une région ultra sensible, le Moyen-Orient. A tout de suite.
RTL pour décrypter l'info. 7h, 9h. RTL Matin.
RTL 8h20, depuis le 7 octobre dernier, l'attaque d'Israël par le Hamas, les yeux de la communauté internationale sont largement tournés vers le Proche-Orient, une région du monde par définition en surchauffe, Syrie, Irak, Liban, Yémen, et au milieu de ces pays en guerre ou gravement perturbés, un pays, l'Arabie Saoudite, et un homme, Mohamed Ben Salman, dit MBS. C'est à ce nouveau maître du Moyen-Orient que vous consacrez votre livre et une enquête passionnante, Christian Chéneau, Georges Malbruno. MBS est-il vraiment ce nouveau maître de la région ?
Alors, il est en passe de devenir le nouveau maître, parce que l'Arabie Saoudite, d'ailleurs, est le pays le plus important, notamment du Golfe, hein, par sa puissance financière, sa puissance énergétique, et il a révolutionné, je dirais, sa diplomatie, en se réconciliant avec l'Iran, en voulant normaliser sa relation avec Israël, et en révolutionnant la société saoudienne, qui était une société archaïque, en remettant les religieux à leur place. Donc, c'est quelqu'un qui n'a pas encore le pouvoir, même s'il l'exerce pratiquement,
oui,
qui va changer la face de l'Arabie Saoudite et probablement du Moyen-Orient.
Christian Chéneau, vous décrivez un leader à la fois moderne et en même temps totalement archaïque. Je ne sais pas comment qualifier les choses. En tout cas, sur nos critères de pays démocratique.
Oui, c'est un bédouin. Il n'a pas étudié à l'étranger. Au début, il ne parlait pas l'anglais. Donc, il est vraiment un produit de l'Arabie Saoudite très local. Et puis, en même temps, c'est un type qui est branché sur l'hypermodernité. Il adore, par exemple, l'art numérique. Il est aussi... Alors, avant, il aimait la junk food. Maintenant, il aime les huîtres Gilardeau et le bœuf wagyu. Il a un train de vie exceptionnel. Et donc, c'est quelqu'un qui est dans l'hypermodernité et en même temps qui est brutal intérieur, parce qu'effectivement, avec lui, c'est un peu le calife et aucune tête ne doit dépasser.
Je vais revenir sur cette brutalité, mais quand on dit c'est un bédouin, il a une culture, il a fait des études, enfin, comprenez ma question.
Oui, tout à fait. Paradoxalement, c'est le seul, pratiquement des fils du roi Salman, qui n'a pas étudié à l'étranger. Lui, il est resté en Arabie Saoudite, et il a toujours été dans le sillage de son père. Et alors, on peut se poser la question, pourquoi justement son père a choisi ce type-là ?
Bah oui.
Et la réponse, elle tient probablement dans les propos que tenait le fondateur de l'Arabie moderne, le roi Ibn Saoud, qui est aussi le modèle de MBS, qui disait « Pour diriger des bédouins, il faut un bédouin, pour bien les comprendre. » Et effectivement...
Quelqu'un du terroir.
C'est le terroir.
Voilà. Bon, alors en tout cas, il a bien fait le ménage, hein, parce qu'il a éliminé tout ce qui l'empêche d'accéder au pouvoir, Christian Chéneau.
Oui, il a d'abord éliminé le prince héritier, Mohamed Ben Daïef, hein, en 2017. Et puis, il a éliminé les princes lors de la rafle du Ritz-Carlton. Il a éliminé aussi des opposants comme Jamal Khashoggi. Oui, il fait le ménage parce qu'il veut révolutionner son pays. Et pour ça, il faut qu'il n'y ait pas d'opposition, quoi. Et il avance à marche forcée. Comme on l'a dit, il a mis les religieux au pas, la famille au pas. Et maintenant, il se lance dans ses grands projets et il veut que l'Arabie finalement se reconnecte au monde, se reconnecte à la mondialisation et que ça soit un hub mondial.
Alors on va revenir là-dessus parce que c'est ce qui est passionnant, mais enfin je voudrais quand même qu'on rappelle qu'il est capable de commanditer des meurtres, notamment de journalistes, vous venez de nous le dire. Enfin, ça pose pas de problème dans la communauté internationale.
Ça en a posé.
Il y a des aspects monstrueux dans le personnage.
On a interrogé un grand patron du CAC 40 qu'il a fréquenté au début en 2015, 2016, 2017. Il m'a dit, je l'ai trouvé effrayant. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, MBS est toujours effrayant ? Je pense qu'il en joue, il l'est moins, mais il impose une espèce de terreur. On a vu des gens qui travaillent avec lui, des consultants américains, qui nous disent on est tétanisés, terrorisés lorsqu'on va présenter notre projet, parce qu'il y a ce... Il a joué, il a fait ses exemples.
Et il en joue, aussi dans les rapports interpersonnels.
Oui, parce que physiquement, il est très grand. Il est comme le roi Ibn Saoud, il fait presque 1m90, un colosse. Et donc, quand il voit Emmanuel Macron, il y a une espèce de... de face-à-face.
Et puis surtout, il a survécu à l'opprobre mondial après Khashoggi. Donc imaginez-vous aujourd'hui une personne dont Joe Biden disait on va en faire un paria, Emmanuel Macron la même chose, ils sont tous allés à Canossa, à Jeddah, pour, si vous me permettez l'expression, lui baiser les babouches.
Alors le prince héritier reçoit sur son yacht, visiblement, pour préparer l'avenir de son pays, le fils Trump, les émissaires du Premier ministre israélien. On dit qu'il peut participer à un apaisement du conflit israélo-palestinien. C'est une vue de l'esprit ou est-ce que c'est quelque chose qui vous paraît raisonnable et concevable et est-ce qu'il va jouer un rôle là-dedans ?
Oui, il va jouer un rôle. C'était déjà en préparation avant le 7 octobre. Il y avait des négociations, des discussions pour qu'il normalise avec Israël. Là, évidemment, le 7 octobre a un peu tout cassé, mais c'est pas terminé, c'est une pause. Et à un moment donné, il y aura une normalisation. Il y a aussi son projet de grande riviera, comme la Côte d'Azur saoudienne. Forcément, il y aura un aspect israélien.
Vous savez, on a expliqué parfois que cette attaque du 7 octobre était faite aussi pour empêcher ce rapprochement. Est-ce que vous l'intégrez dans votre vision des choses ?
Oui, c'est un effet collatéral. C'était pas, je pense pas de la part du Hamas, c'était pas l'objectif principal. Mais effectivement, c'est un effet collatéral parce que ça a forcé l'Arabie saoudite, sous la pression de la population, qui aujourd'hui est très hostile à Israël, de cesser, en tout cas de geler cette normalisation avec Israël.
Vous avez demandé à le rencontrer ?
Non, on n'a pas demandé à le rencontrer.
Pourquoi ?
Parce que
ça peut surprendre.
La probabilité qu'il dise oui était faible, mais en revanche, la probabilité que ça éveille ses soupçons était forte. Et par conséquent, on a préféré, parce que c'est quand même, l'Arabie s'est ouverte, mais ça reste un pays difficile d'accès. On a eu surtout, on suit cette région depuis 25 ans, l'intimité de Mohammed bin Salman dans ses palais, son majordome, etc. On a réussi à trouver des gens qui ont travaillé dans ces palais. Et donc, il fallait qu'on soit extrêmement discret parce que ces gens-là sont tenus au secret. Oui. Donc, on n'a pas voulu du tout éveiller la moindre curiosité.
Je vous vois sourire, Christian Cheneau. Ça en dit long quand même.
Oui, parce que Mohamed Ben Salman, il ne parle pas à la presse quasiment. Il y a quelques interviews avec les Américains. Il parle aux Américains. Il est fasciné par les Américains. Oui. Mais à la presse européenne, il ne parle pas du tout. Et maintenant, il est devenu quand même paranoïaque. Il y a des mesures, on décrit dans le livre, les mesures de sécurité autour de lui. Il a un goûteur. Même quand il vient à l'Élysée voir Emmanuel Macron, il envoie quelqu'un des services dans les cuisines de l'Élysée vérifier que les plats, il n'y a pas de problème.
Il ne fait pas confiance à la République française avant de...
Il fait confiance à personne.
Il fait confiance à personne. Il impose effectivement quelqu'un. Et il demande, lorsqu'il vient déjeuner avec Emmanuel Macron en juillet 2022, il vient en visite de travail. Et à cette époque, la justice française souhaite l'arrêter en raison de Khashoggi, de l'assassinat de Khashoggi. Donc il demande que sa visite soit rehaussée en visite d'État. Alors, l'Élysée lui dit c'est pas possible, mais ils accèdent à sa demande et il est en visite officielle.
Alors, pour les JO, il a demandé une tente.
Ouais.
On va la lui donner.
Je pense qu'on va la lui donner.
Nicolas Sarkozy l'avait fait avec Kadhafi dans la cour de l'autre côté de l'Élysée.
Et on révèle
lui
aussi.
Lui l'a demandé aux Invalides, apparemment. Ce serait
probablement.
Énorme.
On révèle aussi qu'Emmanuel Macron avait marchandé justement l'appui français à l'obtention par l'Arabie de l'exposition universelle en échange d'un appui saoudien au Liban qui n'est jamais venu.
Avec Emmanuel Macron, c'est pas facile.
Ah non, c'est pas.
Il n'y a pas d'alchimie. Et ce sont tout de suite. Il y a eu tout de suite un bug. C'était au moment où justement Mohamed Ben Salman avait kidnappé le premier ministre libanais Saad Hariri. Il y avait eu un face-à-face tendu qu'on décrit dans le livre où effectivement là, c'est un peu deux coqs coq qui se picore, j'allais dire, qui se chicane. Et là, il y a une espèce d'affrontement. Et depuis, il y a une forme de malaise. C'est aigre-doux, quoi. Il n'y a pas vraiment d'alchimie.
Alors, qui se ressemblent. Ils sont jeunes, ils sont réformateurs. Oui. Ils travaillent 20 heures par
jour. Oui, travaillent jour et nuit.
Par jour. Mais Emmanuel Macron a voulu, comme il le fait d'habitude, le jauger, le prendre un peu de haut. Et finalement, ça n'a pas marché. Et l'Arabie Saoudite est probablement plus incontournable que ne l'est la France aujourd'hui.
Un oui, un non avant de nous séparer. Vous nous avez dit très clairement pourquoi vous n'aviez pas souhaité le rencontrer. Est-ce que vous avez subi des pressions en écrivant ce livre ?
Ah, pas du
non.
tout.
Bah non, parce que on était un peu quand même entre guillemets clandestins, c'est-à-dire qu'on a essayé de voir des gens un petit peu en coulisses, parce que sinon dès que vous vous affichez, vous pouvez avoir des pressions.
Justement. Et ça n'est pas un livre à charge aussi. On décrit le modernisateur autocrate. Je crois que c'est une des meilleures définitions qu'on puisse faire.
En tout cas, il fait bon travailler pour lui, puisque vous révélez que son majordome brésilien gagne 300 000 euros par mois. On va se quitter sur cette dernière notion qui m'a fait rire. Le livre sort lundi prochain. Il est passionnant. Christian Chesneau, Georges Malbruno, MBS Confidentiel, enquête sur le nouveau maître du Moyen-Orient. Aux éditions Michel Lafon, merci à vous deux. Il est 8h28. Dans un instant, l'essentiel de l'actualité. Voilà.
RTL, pour tout comprendre de l'actualité.
RTL Matin. 8h30 sur RTL. L'essentiel de l'actualité, Sébastien Rouxel.
Et l'information de la matinée, c'est la fin des gardes à vue dans l'affaire Lina, cette jeune fille de 15 ans qui s'est volatilisée en septembre dernier sur le chemin de la gare de Saint-Blaise-la-Roche à 3 km de chez elle dans le Bas-Rhin. Pour la première fois, 3 personnes avaient été placées en garde à vue hier matin. Elles ont finalement été relâchées cette nuit sans aucune charge retenue contre elles, Yannick Collant.
Oui, encore une piste qui se referme, une de plus. Depuis 6 mois, les enquêteurs multiplient les investigations, les fouilles de maisons, de véhicules, les auditions, mais aucune hypothèse privilégiée ne se dégage à ce stade. Et il faut donc suivre chaque piste, chaque indice, chaque témoignage jusqu'au bout. Là, les enquêteurs avaient estimé que ces 3 personnes avaient de trop grandes incohérences dans leur emploi du temps le jour de la disparition de Lina. Ces habitants ne faisaient pas partie du cercle familial ou amical de l'adolescente, mais ils vivent à proximité et leurs déclarations comportaient des erreurs troublantes. Le couple de septuagénaires indiquait par exemple avoir croisé Lina ce jour-là. Or, c'était matériellement impossible pour eux. Il fallait vérifier que ces habitants se trompaient de bonne foi, que ça ne cachait pas quelque chose de plus grave. Le doute a donc été levé après plusieurs heures de garde à vue. Aucun élément incriminant n'a été retenu contre ces 3 personnes.
Yannick Collant, correspondant de RTL en Alsace, merci à vous. Lui est la cible de menaces de mort sur Internet depuis qu'il a demandé à une élève de retirer son voile. Le proviseur de la cité scolaire Maurice Ravel à Paris quitte ses fonctions pour des raisons de sécurité. C'est en tout cas ce qu'indique le message envoyé aux parents d'élèves. Le rectorat, lui, se contente d'évoquer un départ anticipé à la retraite.
Qui va payer pour renflouer les caisses de l'État ?
Le gouvernement part à la chasse aux économies pour combler le déficit, 5,5% du PIB en 2023. L'exécutif envisage une nouvelle réforme de l'assurance chômage, réduire encore la durée d'indemnisation pour inciter au retour à l'emploi. Il en sera question ce matin lors du séminaire gouvernemental consacré au travail et on attend des annonces de Gabriel Attal ce soir aux 20h de TF1. Autre piste pour faire des économies, des médicaments moins remboursés pour les plus aisés s'ils ne souffrent pas de graves maladies. Sur RTL hier matin, Bruno Le Maire a dit qu'il n'y était pas opposé. Levée de bouclier immédiate des associations de patients. Écoutez Catherine Simonin de France Asso Santé.
Les personnes qui prennent ce genre de mesures n'ont aucune idée du coût de la santé quand on est malade. N'ont aucune idée du prix des médicaments qui sont très onéreux. Ils n'ont aucune idée que quand on est hospitalisé, il y a des restes à charge. Ils n'ont aucune idée de ce que vit le patient dans un parcours de soins. Évidemment, si c'est différencié en fonction des revenus, il faudrait que ça le soit sur les franchises. Parce que des gens aujourd'hui qui sont juste au-dessus des seuils sociaux paient le même prix que pour les personnes qui sont à 6 000 euros par mois, ce qui doit être le minimum de revenus de Monsieur le maire.
Un propos recueilli par Mathilde Piquet. À retenir, à l'étranger, les députés thaïlandais approuvent à l'instant la loi sur le mariage homosexuel. C'est une première en Asie du Sud-Est. Aux États-Unis, les recherches ont été suspendues à Baltimore, où un pont s'est effondré en quelques secondes tôt hier matin, après avoir été percuté par un cargo victime d'une panne. Des ouvriers ont été projetés dans l'eau. 6 sont toujours disparus. Ils sont désormais présumés morts. Emmanuel Macron est au Brésil pour sceller les retrouvailles entre nos deux pays après des années de crispation sous la présidence de Jair Bolsonaro. Lui et son homologue brésilien Lula se sont rendus cette nuit en Amazonie où il a décoré de la Légion d'honneur le chef Raoni, icône planétaire de la défense de la forêt tropicale. Et puis la facture des catastrophes naturelles s'est encore alourdie l'an dernier en France. Elles ont coûté 6,5 milliards d'euros aux assureurs. C'est ce qu'indique ce matin la présidente de la Fédération française de l'assurance qui s'inquiète de l'accélération des événements dévastateurs avec le dérèglement climatique.
Olympiques. Nous sommes à moins de 4 mois des Jeux Olympiques et on sait depuis ce matin où sera installée la flamme olympique pendant la compétition.
Selon l'agence France Presse, Vincent Serrano, ce sera au Jardin des Tuileries.
Oui, fin du secret, puisque ce lieu a même été choisi il y a plusieurs semaines entre le comité d'organisation et la mairie de Paris. C'est ce qu'assure en tout cas à nos confrères une source ayant connaissance des négociations, ajoutant que la flamme sera installée au niveau du grand bassin rond du Jardin des Tuileries, en face de la pyramide du Louvre. Alors le comité d'organisation n'affirme et ne confirme pas cette information, pas de commentaire à la ville, mais on sait que cet emplacement répond à la volonté et aux critères des organisateurs. Un lieu central, facile à sécuriser, sans empêcher les visiteurs de voir s'embraser la flamme olympique. Rien de mieux donc que ce Jardin des Tuileries pour accueillir la vasque, puisqu'elle serait à 1 km à vol d'oiseau de l'hôtel de ville, du musée d'Orsay et des Champs-Élysées.
Merci beaucoup Vincent Serrano. Et puis du foot et la victoire laborieuse des Bleus hier soir face au Chili, 3-2. Ça ne suffira pas à lever les doutes qui entourent l'équipe de France à 3 mois de l'Euro.
Le journal vous a été proposé par Sébastien Rouxel. Il est 8h35, Louis Baudin. La météo à 7 jours. Bon, bah, en tout cas, elle commence dans la pluie.
Elle commence dans la pluie et finira dans la pluie, les 7 jours, parce que je regarde les modèles. Là, vous voyez, j'étais en train de le faire là, en écoutant Sébastien. Et quel que soit ce modèle, vous savez, des modèles français, américains, allemands, voilà. Je les regarde tous en me disant, il y en a peut-être un qui va être un peu plus optimiste. Non, rien.
Modèle yiddish polynésien ou pas?
Oui, mais ça, c'est pas juste, parce que bon, on n'y est pas, nous, là-bas. Ah, vous voyez, comprenez? Donc, en tout cas, ce qui est certain, c'est que donc, on va continuer à avoir des passages nuageux et pluvieux. On l'a dit aujourd'hui, plutôt dans les régions de l'Est cet après-midi, avec de la neige en montagne, risque d'avalanche. Dans les autres régions, petite accalmie, peu arrivera une nouvelle perturbation cet après-midi, qui demain circulera dans les régions de l'Est, et puis une autre viendra par l'Ouest. Alors, demain, quand même, de l'Aquitaine à la Méditerranée, ça devrait être un petit peu plus dégagé avec un peu moins d'averses. Ailleurs, donc, encore des averses. De la neige en montagne. Les températures toujours un petit peu fraîches. Hein, on aura du mal à dépasser les 13-14 degrés dans la moitié nord. C'est en dessous des moyennes. Et puis entre 15 et 17 degrés dans le sud. J'en viens maintenant à la journée de vendredi. Bah, c'est pratiquement la même chose. Alors il y a une petite période d'accalmie quand même. Je ne vous annonce pas de la pluie toute la journée. Donc il y aura un moment où il y aura peut-être quelques éclaircies, mais les averses ne seront jamais très loin. Et puis sur le long week-end de Pâques, bah, ça continue. Hein. C'est pour ça que j'ai une demi-journée sans pluie, une demi-journée avec pluie. Voilà. Alors après, la chronologie, on va l'ajuster. Mais en gros, ça va être ça tout au long du week-end, et quelle que soit la région, hein, y compris dans le sud. Il n'y a pas de jaloux pour ce week-end de Pâques, à un moment ou à un autre, donc on sera sous les averses.
Merci infiniment, Louis Baudin.
Bonjour Isabelle Morini-Bosque.
Bonjour tout le monde.
Et qu'est-ce qu'on regarde à la télé ce soir?
Ça va vous surprendre, France 3, 22h50, les années R5.
Oh là,
R5, 1974, j'adore. La petite voiture avec tout d'une grande. Alors moi, j'ai pas le permis, je me fiche des voitures pourvu que ça roule. La R5, bof. Mais j'ai adoré ce reportage épatant qui a de la tenue de route, évidemment. Il montre que la R5, avant l'électrique, était déjà branchée. Petite, colorée, un coffre absorbant le caddie des courses familiales. Elle devient vite la chouchoute des types qui en ont déjà une grosse de voiture. Les jeunes l'adorent, l'adoptent. François Mitterrand aussi, qui entre un jour à l'Élysée au volant. Le prix de bonne conduite est pour l'ingénieur Michel Bouet. C'est lui qui, un matin, s'amuse à crayonner une trois portes comme ça, grand haillon, pare-choc en plastoc. Impossible pour lui d'imaginer qu'elle va être la voiture la plus vendue durant 10 ans, à l'exportation aussi. C'est dire si avec elle, Renault n'a pas bu le bouillon. Et le bouillon, bah, vous me voyez venir, ça m'amène à Top Chef. L'émission évoque aujourd'hui les bouillons, l'ancêtre des brasseries, donc aussi les plats de bouillon, comme la soupe à l'oignon. Eh bien, ce soir, cuisine et voiture m'ont successivement passionné, alors que dans les deux cas, franchement, franchement, c'est pas mes oignons.
Merci beaucoup, Isabelle. Dans un instant, notre deuxième dose de Philippe Cavrivière. Et puis alors, docteur Jimmy Mohamed, vous revenez, vous, sur la blessure du tennisman Andy Murray.
Il s'est fait une entorse grave de cheville et je vais lui donner quelques conseils au cas où son staff ne serait pas tout à fait au point. Il a intérêt à écouter cette chronique.
Mais il nous écoute tous les jours. À tout de suite.
Yves Calvi, Amandine Bégaud.
RTL Matin jusqu'à 9h.
RTL.
Le deuxième œil de Philippe Cavrivière.
Philippe, nous recevions ce matin Vaïna Diocanté pour son livre formidable, à cœur ouvert, formidable et bouleversant, sur le drame de l'inceste qu'elle a subi.
Oui, hier, Amandine m'a dit, demain on reçoit l'actrice Vaïna Diocanté. J'ai dit, chouette, pour parler d'inceste. J'ai dit, merde. En plus, vendredi, j'étais en coulisses de Quelle Époque avec Christine Angot. Et moi, j'étais terrorisé à l'idée de faire des vannes devant elle. Elle a été adorable. Ah. Aujourd'hui, donc, Vaïna, il faut arrêter de me poursuivre, les enfants. Abusez maintenant, ça suffit. Mais 19 sur 20, invité préféré depuis le début de la saison. Ouais. Parce qu'en résilience, et livre extraordinaire.
Et le livre sort demain, c'est publié chez Robert Laffont. Tout à fait autre chose, les transports pendant les Jeux Olympiques. Et alors, la présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, a déclaré ceci. il ne faudra pas avoir peur de marcher.
Non. Arrache-toi de la téphane, ma bande, casse-toi, tu pues. Et marche à l'ombre.
Ah, Vianney, tu nous manques.
Il nous manque, c'est Vianney.
Foutu extase. Alors, ne suivez pas le même chemin.
Non.
Valérie Pécresse, en agent RATP, c'est un peu particulier, c'est... Bonjour, je suis Valérie Pécresse. Nous vous informons, nos aimables voyageurs qui souhaitent se rendre au Stade de France, qu'il faudra prendre la ligne. Démerdez-vous avec un changement au métro. J'en ai rien à foutre. Alors, agréable journée à tous. Alors, présenter un plan sur les transports en commun en disant qu'il va falloir marcher plus, c'est un peu comme si le ministre de la Santé déclarait « On a une solution pour lutter contre les MST. Branlez-vous
ah !» J'avais pas vu venir. Concernant l'attentat de Moscou, oui, concernant l'attentat de Moscou, il a été revendiqué dès ce week-end d'ailleurs par l'État islamique Khorasan.
Khorasan, pas Khorasan. Apprend des nouveaux pays grâce au terrorisme. Alors, Poutine, tu sens qu'il a du mal à croire au comeback de l'État islamique. C'est un retour de hype inattendu. En France, on n'entendait plus trop parler. Et on apprend qu'ils font carrière en Russie. En fait, l'État islamique a exactement la même carrière que Mireille Mathieu. On sent que... Alors, on sait qu'un des terroristes aurait subi des décharges électriques au niveau des parties intimes. Oh. Peut-être que les Russes lui ont sauvé la vie avec un petit défibrillateur testiculaire, on ne sait pas. Et il y en a un autre à qui on a fait manger son oreille.
Oui, voilà.
Vous avez vu le bandage, il est très mal fait le bandage. Hein. Alors peut-être que ça pourrait être une nouvelle recette pour notre Cyril Lignac, le cuisinier content. L'oreille d'opposant. Alors moi je suis de l'Aveyron, alors la cuisine russe vraiment c'est nouveau, je me lance. Alors vous prenez un opposant politique, vous choisissez celui qui a les belles oreilles comme ça, comme Bayrou ou Charles III. Voilà. Vous en coupez une, vous désinfectez, vous déglacez avec un trait de vodka. Vous préparez l'oreille, soit en carpaccio, soit en tartare. On peut le faire en cocotte ou froid avec une vinaigrette. Oh, juste un trait de vinaigrette balsamique. Et vous le donnez à manger à la personne ou au convive. Attention, l'oreille d'opposant, c'est une entrée. Hein, voilà, bien sûr, c'est juste... Demain, je vous parlerai des rognons d'opposant.
Oh,
bon appétit à tous. C'était ma petite astuce.
Vous nous remettez Pépito ?
Ah, ça fait du bien.
Et on vous retrouve demain à 7h55. Merci Philippe.
Bonjour Dr Jimmy Mohamed.
Bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour.
Lors de son dernier match au Master 1000 de Miami, Andy Murray s'est gravement blessé à la cheville. Il souffre notamment d'une rupture complète de son ligament talo-fibulaire antérieur. J'ai bien dit ?
Exactement. Bon. Et on va commencer par rappeler ce que c'est qu'un ligament.
Oui.
Philippe,
oui.
Vous savez ce que c'est qu'un ligament ?
Alors c'est comme un tendon en plus gros.
Oui, bah, il y a encore quelques années à faire, effectivement. Alors, un ligament, c'est une structure qui est faite de tissus composés de fibres, un peu à la manière d'une corde, qui permettent de relier une articulation. La particularité des ligaments, c'est qu'ils doivent être à la fois très résistants pour stabiliser l'articulation, mais aussi très mobiles pour permettre les mouvements.
Voilà. Et en cas d'entorse, ce sont justement ces ligaments qui sont touchés.
Oui, et le ligament talo-fibulaire, c'est un des ligaments les plus importants dans la stabilité de la cheville. On le trouve sur le côté externe de la cheville et il est composé de trois parties. Un ligament en arrière, qu'on appelle postérieur, un au milieu et un en avant qu'on appelle antérieur. Et Andy Murray s'est fait une rupture complète de deux de ses ligaments, celui antérieur et celui du milieu.
C'est ce qu'on appelle une entorse grave, c'est ça ?
Exactement. En fait, une entorse, c'est l'atteinte d'un des ligaments. Le ligament qu'on peut imaginer un peu comme un chewing-gum, qui va être plus ou moins étiré, plus ou moins distendu en fonction de l'entorse. Et plus une entorse est grave, plus ce ligament va souffrir et le stade ultime, eh bien, c'est la rupture totale qui correspond tout simplement à une déchirure du ligament.
Et on traite comment cette entorse ?
Des antidouleurs, car ce genre d'entorse fait extrêmement mal. Une attelle pour immobiliser la cheville et du temps pour lui permettre de cicatriser. La seule chose qu'il faut comprendre, c'est que lorsqu'un ligament est rompu, il ne repousse jamais. C'est pourquoi chez le sportif de haut niveau, on peut être amené à le réparer chirurgicalement en faisant ce qu'on appelle une ligamentoplastie.
Des conseils pour ceux qui souffriraient en fait d'une entorse de cheville mais qui n'auraient pas le staff médical d'Andy Murray ?
Oui, complètement. Le conseil le plus important en cas d'entorse de cheville, quelle que soit sa gravité, en fait, c'est d'aller voir un kiné. Je vous ai dit qu'un ligament, ça ne repousse jamais. Et le risque, en fait, c'est que votre articulation, elle soit moins stable. Le problème, c'est que lorsque l'articulation de la cheville, elle est moins stable, eh bien, vous faites des entorses à répétition, pour un oui ou pour un non. Et à terme, ça risque d'entraîner ce qu'on appelle de l'arthrose de cheville. Donc, en cas d'entorse, même bénigne, il faut aller voir le kiné le plus tôt possible. Vous aurez un petit bilan. Il vous donnera quelques conseils pour assouplir la cheville, lui permettre de retrouver de la mobilité et renforcer les muscles pour la stabiliser et éviter ces entorses à répétition.
Merci, docteur.
Mais oui. Non, je pensais...
À quoi vous pensez ?
Non, je me disais, ce serait bien d'avoir un kiné qui s'appelle Fabrice. Fabrice le kiné.
Oh non ! Ah non, mais si vous vous imitez.
On était très. Je me suis fait rire tout seul pendant qu'on vient.
Quelle blague. Vous l'embauchez ou pas, Philippe? Vous l'embauchez, moi.
Yves. Un peu pire, vous savez.
Bon, j'ai un peu. On va retrouver Cyril Lignac.
RTL Matin.
Bonjour Cyril Lignac.
Bonjour.
Comme le rappelait Amandine il y a quelques instants, oui, le mercredi, c'est le jour des gâteaux.
Et oui, et au chocolat aujourd'hui.
Oh là là,
vous
me
comprenez. Alors je vais vous donner mon astuce.
Ah, ben, à fond dans l'astuce.
Pour faire un biscuit moelleux au chocolat qui soit bien coulant.
Oui.
Et à la fois fondant. Alors c'est très simple, on beurre et on farine les moules. Alors on prend des moules qu'on a à la maison, hein, c'est pas la peine de se tracasser, un moule à manquer. On peut faire un grand aussi. Mmh. On peut le faire dans un grand moule à génoise, sauf qu'on n'arrivera pas à le démouler. Mais c'est bon aussi de le manger à la cuillère à l'intérieur. Mmh. Pourquoi je prends des petits moules? Parce oui, qu'on peut le démouler, il est coulant, et on arrive quand même à le démouler. Si vous prenez un grand moule, bon, mais quand vous allez démouler, vous allez
le couler. Ça va être plus compliqué. Donc on ne peut pas prendre un moule à cake, c'est pas la même chose.
Non, c'est pas la même chose. Mais on peut le manger quand même comme ça. Donc on prend dans un saladier les œufs, les jaunes, mmh, on les bat avec du sucre, longtemps au batteur à main. Ça va nous donner ce qu'on appelle une pâte à bombe, quelque chose de moelleux et d'émulsionné, comme un peu un sabayon. Dans un saladier, vous faites fondre chocolat noir et beurre fondu. Alors ça, ça passe au micro-ondes. Parce qu'il y a le beurre. Si vous mettez le chocolat au micro-ondes tout seul, il va brûler.
Le Cyril Lignac que je connais aime bien généralement mélanger son chocolat noir avec son chocolat au lait.
Oui, mais là, j'ai voulu rester chocolat noir moelleux parce que comme j'y ajoute du sucre, je bricole pas.
Fort bien.
Ça va. Et ensuite, on mélange tout ça à la maryse, on ajoute de la farine, on met dans les moules et on cuit. Alors ça, c'est, je vais vous donner mon astuce, mais à la maison, il faut tester. C'est-à-dire, je mets le four à 170 degrés.
Oui.
Et naturellement, je mets entre 7 et 8 minutes pour qu'il soit bien coulant. Sauf que, selon le moule, selon le four, c'est à vous de tester et de jouer. C'est génial avec les enfants de regarder avec la pointe du couteau
oui,
comment il est coulant, si on l'aime plus ou moins coulant. Et ensuite, eh ben, on le mange comme ça, démoulé ou pas démoulé, dans
avec
le moule.
Avec une petite boule de glace.
Et une petite... je voulais essayer d'être simple, mais... On peut rajouter de la glace, allez.
Bah oui.
Et même de la... Moi, je vous dis, je mets un peu de chantilly dessus.
Bah oh, voilà.
Je suis un dingue.
Une boule vanille, éventuellement
boule
une boule
vanille,
pistache.
Boule vanille, crème anglaise, bah oui, pistache. Allons-y sur le topping.
Et la recette est à retrouver sur le site rtl.fr.
Bonjour Julien Courbet.
Bonjour, les recettes continuent. Tu prends un oui, homme qui tombe amoureux d'une femme sur internet, tu le tartines et il perd 15 000 euros. Je rajoute un petit peu un artisan. D'artisan qui continue à faire des chantiers.
Oui.
Et alors il a liquidé la société, il continue de travailler. Et alors après, pour garnir tout ça, si tu veux, pour présenter sur la table, tu prends une tondeuse à gazon qui n'a jamais existé, qui a été vendue 9 000 euros, tout ça à présenter. Et ça fait un bon repas d'arnaque, pas cher. Voilà, à 9h.
À tout à l'heure. Oui.
À tout à l'heure. Laurent Gérard, Mademoiselle Jade, dans un tout petit instant. C'est vrai. C'est vrai.
Merci d'écouter RTL. RTL, vivre ensemble. RTL Matin, Amandine Bégaud et Yves Calvi.
8h53, merci à vous tous qui écoutez RTL. Bonjour Laurent Gérard.
Bonjour.
Bonjour,
bonjour. Bonjour Mademoiselle Jade.
On dit des bêtises même avant.
Oh non.
En guise d'apéritif, en ce mercredi, nous commençons par quelques titres présentés aujourd'hui par notre ami Pascal Praud.
Bonjour.
Emmanuel Macron a provoqué l'hilarité des réseaux sociaux en publiant des photos de lui dans l'effort en train de boxer un punching ball.
Les internautes le soupçonnent d'avoir photoshopé ses bras pour avoir de plus gros biceps. Mais le président dément, il aurait été greffé par le chirurgien esthétique Olivier Véran, qui aurait été plus inspiré en lui greffant des roubignoles. Mais je n'en dis pas plus, je ne voudrais pas perdre la fréquence de CNews.
Ah ben justement, puisque vous en parlez, après CNews, le RN a demandé et obtenu l'audition de Quotidien et de Yann Barthès à l'Assemblée. Une réaction peut-être ?
Oui, je confesse une petite érection. Voilà, merci, au revoir.
Bonjour Bruno Le Maire.
Bonjour madame.
Vous étiez déjà là hier. Hein. J'espère que vous n'allez pas nous annoncer de mauvaises nouvelles économiques.
Au contraire, je suis venu, c'est pour parler de mon nouveau livre, La Voix Française.
Un ouvrage très différent de Fugue américaine, votre précédent livre.
En effet, Fugue américaine était un roman sulfureux, comprenant de nombreux passages érotiques, alors que La Voix Française est un livre strictement politique, dans lequel je présente la France comme une femme délaissée, qui n'a besoin que d'une étincelle pour s'abandonner de nouveau à l'ivresse du plaisir.
Encore une approche très érotique, tout ça, oui, monsieur le maire.
Mais pas du tout, je dis juste que la France attend l'homme providentiel qui saura la relever en la chevauchant avec fougue et tendresse.
Eh ben, c'est bien ce que je dis.
Un homme qui n'aura pas peur de prendre la France en lui tirant les cheveux, en lui mettant des petites claques sur les fesses.
Mais monsieur le maire, mais calmez-vous, s'il vous plaît. Nous sommes quand même à une heure de grande écoute.
Bah oui. Désolé, je me suis emballé comme l'inflation.
Une dernière question. Doit-on comprendre avec ce livre que vous êtes candidat à la présidentielle en 2027?
Il est encore trop tôt pour le dire, mais après 10 ans d'Emmanuel Macron, il est évident que la France aura besoin d'un vrai bonhomme. Donc ce n'est pas moi qui serai candidat, c'est elle qui me suppliera.
Après Douai, Lyon et Bordeaux, le Conseil constitutionnel était la semaine dernière en déplacement à Toulouse. Pour en parler, nous recevons l'un de ses membres. Bonjour Alain Juppé.
Salut Le Guin, du micro au repos.
Votre voyage d'études à Toulouse s'est bien passé, monsieur Juppé?
Nickel chrome, depuis que Fabius, notre président du Conscons, a lancé l'idée de faire des excursions en bus, c'était l'une de nos meilleures. Je ne regrette pas de m'être inscrit. Je me suis mis devant dans le bus, comme ça, je n'ai pas été malade. À midi, on s'est arrêté pour une démonstration de casseroles, j'en ai acheté 4. Et comme Jacqueline Gourault avait apporté son carnet de chant, on n'a pas vu le temps passer.
Alors revenons à l'objet de ces voyages. Une fois sur place, le Conseil constitutionnel siège en public, c'est ça?
Affirmatif. Ça se passe un peu comme aux Grosses Têtes. On s'assoit autour de Laurent Fabius, qui nous pose des questions préalables de constitutionnalité, oui. Et nous on répond au pif pour faire marrer les gens. Les plus poilants de nous tous, c'est Jacques Mézard et Michel Pinault.
Ils sont super fun.
Oui, quand ils sont chauds, on dirait Jacques Martin et Jean-Yann. À Toulouse, ils sont partis en impro sur les subventions aux intercommunalités du Val-de-Loire. Je ne vous dis pas le fou rire.
Alors, j'ai lu que vous profitiez aussi de ces délocalisations pour visiter des lycées.
Encore une idée de Fabius. Il nous fait rencontrer des classes de jeunes pour qu'on leur explique à quoi sert le Conscons et comment il fonctionne. À Toulouse, c'était au lycée Saint-Servin.
Oui, ça s'est bien passé?
Disons qu'au début, quand ils nous ont vus débarquer en minibus, ils se sont méfiés. Ils ont cru qu'on était une chorale d'EHPAD et qu'on venait chanter du Francis Lemarque. Mais ils ont pigé qu'on était juste là pour causer du conscons et que ça compterait pas dans la moyenne. Ils ont repris leur téléphone, ils nous ont laissé roupiller peinard.
Depuis le 5 mars dernier, la grande Isabelle Huppert incarne Bérénice dans la célèbre tragédie éponyme de Racine. Une Bérénice très revisité, qui ne fait pas l'unanimité. Bonjour Fabrice Lucchini.
Monterland a dit « La bêtise consiste à avoir beaucoup d'idées, mais des idées bêtes. La bêtise consiste à avoir beaucoup d'idées, mais des idées bêtes. » C'est énorme parce que c'est exactement ce qu'a fait Roméo Castellucci en révisant entièrement Bérénice de Racine.
Ah bon, il a mis beaucoup d'idées nouvelles dans sa révision de ce grand classique.
Je te lis le programme du Théâtre de la Ville, je cite, écoute bien, c'est authentique. Oui. Sur la scène, il n'y aura que 3 acteurs au lieu de 8. Et toutes leurs répliques seront incompréhensibles et recouvertes par la voix d'Isabelle Huppert, transformée par un autotune.
Ah oui, tiens, ça c'est une nouvelle idée.
Ouais. Attends, c'est pas fini. T'as une autre idée géniale du metteur en scène, du metteur en espace. À la scène 5 de l'acte de Bérénice, ouvre sa machine à laver et découvre que sa toge est tachée de sang. Alors elle maudit les dieux de l'Olympe sans se rendre compte que dans un coin, tu as des figurants qui se mettent à poil et qui jouent avec des rubans.
Ah ben oui, on comprend mieux pourquoi cette adaptation de Bérénice par Roméo Castellucci fait autant parler d'elle.
Et tu vois là, Jade, au fond, le véritable coup de génie du metteur en espace, c'est d'avoir pris une tragédie et d'avoir réussi à faire rire avec.
C'est beau. Bonjour Fanny Ardant. Vous êtes allée voir votre consoeur Isabelle Huppert dans cette adaptation de Bérénice dont tout le monde parle?
Mais non, mais tu sais, même si j'y étais allée, je n'aurais pas vu car la salle de théâtre de la ville est plongée dans le brouillard. Car comme le dit le metteur en scène, il a de la clarté dans l'obscurité.
Ah oui, mais c'est quand même gonflé de la part du metteur en scène de dissimuler ainsi la scène et l'immense Isabelle Huppert.
Oui, mais tu sais, il a raison de cacher Isabelle. Tu sais, j'adore Isabelle, c'est un peu ma maman dans ce métier. Mais elle est c'est beaucoup gentil. Plus belle quand elle est cachée dans le brouillard. Non mais au secours, non mais sortez-moi de là. Non mais je rêve, là je vais me réveiller.
Ah voilà Pierre Arditi, je devine que vous aussi vous êtes allé voir cette version très audacieuse de Bérénice.
Ah non, vous n'allez pas vous y mettre aussi, vous. Ah non, non. Vous trouvez ça audacieux, vous défacez 85% des personnes, des personnages, parce que ce sont des hommes. Non, et Isabelle Huppert, avec une voix de rappeuse qui parle dans un tube en fer. Non, 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 mais cette femme a mal. Cette femme souffre, sortez-la de là.
Bon, bah, je crois qu'on a bien compris que vous n'étiez pas emballé.
Non, mais c'est pas moi qui suis emballé dans ce foutoir. C'est Titus. Ils ont mis Titus dans un carton pendant que Bérénice enlace un radiateur. Non, mais je n'invente rien. Ils sont sucrés la moitié du texte. Alors, si vous voulez voir du théâtre, venez à la pépinière. Il n'y a pas de brouillard.
Ah bah oui.
Hein, il n'y a pas de radiateur. Il y a 100% du texte.
Voilà. Ah là là, merci infiniment à vous deux, oui absolument.
Est-ce que Laurent est toujours avec nous ?
Bien sûr.
Oui. Alors lui qui a dit beaucoup de bien sur les Jeux Olympiques et qui les adore, voilà. Cet été. Ah oui. Non mais c'est une info, c'est vrai. Parce que j'ai rencontré un directeur de théâtre hier qui me disait qu'écoutez bien, une petite dizaine de théâtres qui sont proches des sites olympiques dans les zones bleues, rouges, qui seront fermés à la circulation, vont être fermés pendant 2 mois. Et pour l'instant, il n'y a rien qui a été prévu pour eux, donc il n'y aura pas une seule recette pendant 2 mois pour
ces théâtres.
Ah si si, Marigny... Michel, Théâtre des Mathurins, et ils ont écrit apparemment à Rachida Dati, au ministre des Sports, ils n'ont aucune réponse. Donc ils veulent bien savoir comment ils vont faire pendant 2 mois avec des théâtres fermés.
Non, on ne peut pas massacrer le théâtre sous prétexte qu'on accueille les Jeux Olympiques.
Je me suis dit, peut-être que la rédaction peut s'occuper de ce petit problème.
C'est Jean Mal.
C'est dommage, parce qu'on aurait pu mettre du brouillard en plein été sur des représentations. Bon, nous allons maintenant retrouver Olivier Brois, que nous avons habillé en marin pour faire, avec du brouillard et de la tempête, pour faire le rappel des titres.